Maintenant, je me réjouis beaucoup d'introduire le professeur invité actuel. C'est le romancier, poète et essayiste Abdourahmane Wahberi. Très bien. Oui, alors il vit maintenant encore à Bienne pour deux semaines. Il est né à Djiboutiville et vit entre la France et les États-Unis. Il enseigne les littératures d'expression française et la création littéraire à l'Université George Washington à Washington, D.C. Et dans son séjour à Berne, il enseigne un séminaire hebdomadaire sur l'afrofuturisme et les discours artistiques qui s'intéressent aux identités, aux formes d'expression et aux projets d'avenir de la diaspora africaine. Il est auteur de plusieurs ouvrages primés et déjà son premier roman, Le pays sans ombre, a été attribué avec le Grand Prix de la Nouvelle francophone de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, un très long nom, et le prix Albert Bernard de 1994 de l'Académie des sciences d'outre-mer. En 2019, sortait le dictionnaire enchoué des cultures africaines, dans lequel Abdourahmane Wahberi, en collaboration avec Alain Mabankou, j'ai bien prononcé, qui est aussi écrivain et enseignant franco-congolais. Et les deux proposent une mythographie du continent africain. Et en octobre 2023, on peut dire peut-être la suite de ce dictionnaire qui s'appelle Notre France Noire. Et c'est aussi le point, voilà, c'est là le livre, le point de départ de la discussion de ce soir sur la Suisse noire. Je suis aussi très ravie de vous présenter Myriam Diarra-Schutzbach, qui va discuter avec Abdourahmane Wahberi ce soir. Elle est assistante socio-éducative ainsi que pédagogue thérapeute du mouvement. Elle est impliquée dans différents projets de théâtre, de danse, et elle est aussi la première femme D-Chain à Bienne, j'ai appris. Et aussi, elle est une des premières femmes noires suisses nées à Bienne. Son père est originaire du Mali. Il est arrivé en Suisse après avoir étudié en Russie. Il a vécu en ex-Yougoslavie et aussi en France. Et sa mère est d'origine de Bienne. Elle est droguiste de métier. Et en 2020, Myriam Diarra-Schutzbach, elle a publié le livre « I will be different every time ». C'est une collaboration aussi, le livre est là.
Mais d'ailleurs, l'autre est là.
Oui, et en fait, vous pouvez acheter ces deux livres aussi en bas après. Il y a la Libromania qui nous a fourni ces livres. Alors, cette œuvre, c'était une collaboration avec la poète et artiste Fork Burke et la sociologue Franziska Schutzbach. Et ce livre relate une page de l'histoire noire, Black History, en Suisse. Il contient plusieurs témoignages des femmes noires vivant à Bienne. Ils sont des divers d'origine, des diverses générations, et parlent de leur propre parcours et aussi de leur point de vue. Mais maintenant, je passe la parole à vous deux, et je commence avec une première question. Quand nous avons discuté pour préparer cet événement, on a constaté que vos deux livres, ils sont sortis ou nés un peu d'un scandale. Alors là, j'espère qu'on va aussi discuter de cette question. Merci beaucoup.
Merci.
Démocrate.
Qui c'est qui commence par parler du scandale?
Attends. Bonsoir tout le monde, je vais... En ton nom et en notre nom, saluer la salle. Donc, je voudrais d'abord commencer par des mots de remerciement et dire à Stéphanie, qui était ici, et à toute son équipe de la Tour de la Démocratie. Vous voyez, je viens d'un pays dictatorial, donc ne serait-ce que rester une heure dans la Tour de la Démocratie, c'est déjà un bonheur. Je voudrais aussi signaler mon bonheur et remercier les institutions qui nous ont invités, à commencer par l'Université de Berne, son collège Walter Benjamin et toute l'équipe du département de germanistique et langue romane, représentée ici par mon ami Oliver Lubitsch. Je l'ai embêté longtemps pour qu'il m'invite. Hein. Je lui dis, quand est-ce que tu m'invites à Berne? Donc voilà, je suis très heureux. Maintenant, je peux mourir puisque j'ai fait, je suis devenu Dürrenmatt Fellow, comme on dit. Et c'est un bonheur d'être aussi Dürrenmatt parce que c'est un auteur qui m'avait, surtout son livre sur le retour de la vieille dame qui était assez caustique et qui a aussi fait l'adaptation d'un film africain, d'un Sénégalais. Qui a transposé l'histoire, un Sénégalais qui s'appelle Djibril Mambéty Diop, qui est un très très bon cinéaste et qui avait adapté. Donc, Dürrenmatt est déjà aussi africain. Donc, je voudrais aussi remercier mes étudiants, j'en vois quelques-uns. J'ai un compatriote dans la salle, j'ai un ami qui est ambassadeur dans la salle, et ex-ambassadeur, et plein d'autres personnes. Donc, je voudrais tous vous remercier au nom de ma sœur aussi, Diarra, avec qui je suis, Myriam Diarra, avec qui je suis ce soir en dialogue. Vous remercier, vous saluer comme salue ma grand-mère, comme ma grand-mère m'avait appris à saluer les gens avec une forme qui serait propre aux gens qu'on appellerait à l'époque prémoderne. Vous voyez, elle saluait les gens en disant, dans sa langue maternelle, le somalien, elle disait « je salue comme on salue les arbres ». Et comme on embrasse presque, elle disait, les arbres. Et quand j'avais 10-11 ans, moi, ça me paraissait très bizarre. Je disais, mais de quoi elle parle, elle est... Et aujourd'hui, je comprends un peu mieux, parce que ce qu'elle voulait dire, on sait qu'aujourd'hui, que les êtres humains sont aussi en relation avec non seulement les animaux, les plantes, et les tables sont des arbres. Et donc, ça, on appelle ça les règnes du vivant, on appelle ça la biosphère, etc. Donc, les gens qu'on disait prémodernes, ou les gens qui sont des traditions à... notamment les Africains, les anciens Africains, parce que nous, on a déjà un peu perdu, on est dans la nostalgie de ces rapports-là, ils avaient un rapport direct à la nature, à l'espace des autres, et à ce qu'on appellerait le monde animal. Donc je voudrais en tout cas vous saluer et vous remercier comme j'embrasserais des arbres, comme dirait ma grand-mère en Somalie. Ce soir, je suis très, très honoré d'être avec Myriam Diarra. Et... à l'issue de cette chaire Dürrenmatt, il y avait l'étape, une de mes dernières étapes, puisque mon séminaire va bientôt se finir, et une de mes dernières soirées. Hier, on avait un atelier avec des doctorants, dont certains, Philippe, merci d'être là, sont là. Et avant d'aller à Genève et à Biel, pour les deux prochaines semaines, voilà, c'est mon dernière étape, et donc pour moi, c'est aussi une sorte d'étape. Et donc, j'ai ce soir de l'émotion à discuter. Alors, quand on m'a dit de quoi tu as parlé, moi, avec mes deux derniers livres et mon dernier livre disponible en allemand, on parlait, Alain Mabankou et moi, ce qu'on appelle, c'est presque maintenant un nouveau domaine d'études, ce sont les études des productions des gens qui sont en Europe, des gens européens, des Français, des Espagnols, des Allemands, etc., mais d'origines africaines, ou d'origines migrantes, comme on dit. Et là, il y a un nouveau champ académique, ou un sous-champ qui s'appelle les études afro-européennes. Ils ont d'ailleurs une association internationale, ils font une biennale, et donc en France, on commence à connaître ça, et ailleurs aussi. Et donc j'ai dit, ben, je vais discuter avec des gens qui sont aussi de Afro-Suisse, comme on dit. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, avant de passer la parole à ma sœur, avant-hier, il y avait un groupe de jeunes Suisses, des Bernois, des jeunes gens, des artistes de hip-hop qui ont 22 ans, 23 ans, sont eux-mêmes venus dans notre cours et parce qu'ils faisaient de l'afro, ils faisaient de l'afrofuturisme, ils s'identifiaient afrofuturistes et ce sont des chanteurs d'ici, des jeunes gens, pour certains d'origine. Enfin, les deux jeunes gens sont suisses, bernois et l'un des parents italo-congolais et l'autre, je ne sais plus, suisso-sénégalais, etc. Donc c'est le nouveau monde. Mais en tout cas, ils chantent en allemand bernois et ils font du hip-hop. Ils m'ont même dit qu'ils voulaient révolutionner le hip-hop et même révolutionner la langue allemande. Ils veulent la manier, ils disaient l'adoucir, parce qu'apparemment l'allemand aurait des sons plus durs, n'est-ce pas? Donc ils vont l'assouplir pour l'accommoder au rythme d'hip-hop. Et après, je finirai. Et c'était exactement dans les années 90, en France, la discussion. Sur la scène d'hip-hop, il y a des gens qui disaient, Ayam, tu connais ça mieux que moi. Ils disaient que le français n'est pas une langue qui est chantée, qui est rappée, etc. Est-ce qu'on ne ferait pas directement rapper en... Disaient les premiers, hein. Lionel D et comme ça.
Oui.
Hein. Et donc la nouvelle génération, avec Ayam et NTM, a dit, ben non, on va acclimater les hip-hop et on va les chanter en anglais. Donc je suis heureux que ces deux jeunes gens soient venus à nous, puisque eux aussi ils font ce travail de, on va dire, créoliser l'allemand bernois et les mettre au hip-hop. Mais peut-être je vais commencer, avant qu'on commence notre discussion, Myriam, si tu le permets, parce que c'est ma sœur, mais c'est le lion, hein. Diarra dans la mythologie africaine et chez les Bambara, c'est le lion. Donc je vais surveiller le... Mais juste, parce qu'on te présente comme pédagogue du mouvement.
Alors, j'ai parfois tendance à un peu oublier de citer tout ce que je fais dans ma vie. Donc, je précise souvent que je ne suis pas simplement maman et mariée, ce qui donne aussi passablement de travail. Mais je suis pédagogue et thérapeute du mouvement. C'est une formation qu'on ne peut pas effectuer pour le moment en francophonie. Donc, je l'ai faite en allemand à Bâle. C'est ce qui m'a poussée à encore mieux parler l'allemand. Et suisse allemand, justement, mais je ne l'ai pas créolisé.
Mais c'est quoi, techniquement, du mouvement? Parce que c'est la désignation qui me paraît un peu...
C'est un terme qui porte... Ce sont des termes qui portent à confusion. Je ne suis pas vraiment thérapeute ou pédagogue, comme on peut se l'imaginer. Je ne suis pas physiothérapeute.
D'accord.
C'est en fait une formation qui concernait le corps... sous toutes ses formes, que D'accord. ce soit au niveau de l'anatomie, de la tenue. Donc, on était tout le temps en habit de sport. Donc, lors de ma formation, on avait des cours de tenue, mouvement, de danse. On analysait le corps, tant bien que mal, en fait, sous toutes ses formes. Aussi, l'aspect psychologique. Pardon. Et moi, j'ai décidé de me diriger plutôt du côté de musique et mouvement. Je crée donc avec des élèves plus jeunes, moins jeunes, des pièces de théâtre. Et on peut incorporer et intégrer des chorégraphies, chanter. Enfin, j'aime bien pouvoir offrir une palette vaste à mes élèves, de pouvoir faire qu'ils puissent s'exprimer comme ils le souhaitent ou comme elles le souhaitent. Donc c'est ce que je fais. Je suis également assistante socio-éducative, je travaille dans un accueil parascolaire, c'est un petit peu la base, mais je vais voir, peut-être par la suite je ferai autre chose, je ne sais pas, mais je m'y sens bien. C'est comme une zone de confort parce que je me sens bien avec mon team. Y a une grande diversité au niveau des enfants, chose que je ne connaissais pas moi-même étant gamine. Et depuis quelques temps, je travaille pour une association, je fais partie d'une association qui s'appelle Mosaïque. On fait de la prévention par rapport à 5 types de discrimination. Il y en a encore plein d'autres. J'imagine qu'il y en a dont on n'a même pas encore conscience. Mais moi, je fais partie du groupe antiracisme. Donc, j'interviens soit auprès des élèves ou si on a des demandes de la part de groupes de parents. On a donné une formation aux enseignants de mes enfants, ce qui était assez particulier, très symbolique pour moi, parce que c'était finalement... dans le bâtiment où j'ai effectué mon école secondaire et où j'ai vécu beaucoup de discrimination. Et là, je me retrouvais sur scène à la place du directeur qui était caporal à l'époque, enfin quand il était plus jeune, donc c'était très très strict, très dur, pas du tout ouvert. Et là, j'avais l'occasion d'être prise au sérieux finalement, alors qu'à l'époque, on m'avait pas prise au sérieux du tout. Donc je suis très reconnaissante d'avoir tout ça en main, mais c'est parfois fatigant. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Mais, ouais. Je ne pourrais pas dire quel domaine je préfère, mais c'est vrai que le côté théâtral, musical et tout ça. Donc,
et tu as commencé chouette. À faire du hip-hop aussi. Donc, on va recommencer. Alors, d'où viens-tu et quel type de jeune femme étais-tu? Parce que celle que j'ai vue hier, elle était tout à fait à l'aise dans son afro-suicitude. Mais peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas aussi simple. Il y en a.
Elle était plus jeune que moi.
Non, elle a 21 ans. Hein,
D'accord, j'en ai 47. comment dire?
Juste pour commencer un peu la généalogie. Quoi.
Donc, mes parents se sont connus à Genève. Mon père traînait à Annemasse. Et ma maman s'est retrouvée à Genève, en fait, parce que sa maman était fâchée contre elle. Elle l'a envoyée là-bas, dans un centre tenu par des bonnes sœurs. Et ma mère a connu mon papa. Et elle l'a ramené dans ce centre. D'ailleurs, ça devait être bien drôle, ou pas. Et elle a remarqué tout de suite, elle le savait, à l'époque à Genève, il y avait des bars pour les Noirs et les Arabes et pour les Blancs. Donc c'était très, très, très séparé. Elle était jeune, elle avait 22 ans. Non, un peu moins de 22 ans.
C'était séparé officiellement ?
Oui.
Il y avait marqué interdit aux Arabes et...
Non, non.
À Genève, ah, ma mère, elle y était. Elle, il y a des bars qui étaient vraiment... La plupart des bars étaient interdits aux Noirs et aux Arabes. Et il y avait des bars pour les Noirs et les Arabes. Après, les Blancs pouvaient aussi y aller, ma mère y allait. Il y avait des bars pour tout le monde et d'autres qui n'étaient pas accessibles.
Oui, ça, c'est social, mais il n'y avait pas une interdiction formelle, si ?
Oui, en tout cas, à Vienne, il y avait celle contre les Italiens et les chiens.
Ouais,
ok. Oui, il y a, y a plein de choses à découvrir. Ce n'est pas toujours réjouissant, mais ça explique beaucoup de choses. Donc, c'était des bars où il y avait beaucoup de bagarres, malheureusement. Et par la suite, elle a décidé de le présenter à sa famille. Ça ne s'est pas très bien passé. Donc, elle a proposé en fait à mon père de partir au Mali. Elle pensait à l'époque que le racisme n'existait pas au Mali, mais elle a compris que ce n'était pas du racisme. En fait, elle pensait qu'il n'aurait pas de problème de discrimination en tant que couple mixte. Et mon grand-père, qui était médecin, qui voulait de grandes carrières pour ses fils. Donc, mon père est parti en Russie étudier. Mon oncle en France, il était à la Sorbonne. Pas du tout apprécié l'arrivée de cette femme blanche. Il lui a fait bien ressentir. Elle a remarqué qu'elle était enceinte. Même après avoir effectué tous les vaccins, j'ai tenu le coup. je suis assez résistante, apparemment. Ils sont revenus à Vienne parce que ma grand-mère, qui était sage-femme, lui a clairement dit que c'était pas... qu'elle n'était pas en sécurité ici. Si toutefois il y a eu des complications à l'accouchement, qu'on ne l'aiderait pas, parce que justement elle est blanche. Il y a eu des complications à l'accouchement, mais rien que pour arriver en Suisse, c'était très compliqué. Ma mère s'est fait insulter enceinte. Elle a dû prendre... c'est la police qui a arrêté mon père, qui l'a repris, qui l'a amené en France pour une histoire. Je ne sais pas si elle l'avait confondu avec un autre noir. Et ma mère s'est rendue en fait toute seule à Vienne. Et c'est là que mes parents ont décidé de vivre par la suite, quand il est revenu. Donc il y a pas mal d'éléments dont je n'ai pas la date exacte. Enfin, j'ai beaucoup de récits, puis je ne sais pas à quel point ils sont objectifs ou pas. Mais je pense que j'ai baigné dans le racisme, rien que dans le ventre, quoi, en fait. C'est vrai que c'était... Donc là, ma vie intra-utérine était déjà bercée par ce genre d'ambiance. Mais ce qui est bizarre... Alors, mon premier souvenir, j'avais 5 ans, mais c'était comme quelque chose de normal. Je me disais que c'était un petit peu, comment dire, j'avais un petit peu intégré ça, et mon moyen de défense, c'était les biscottos. Heureusement, d'ailleurs, je tapais les gens qui m'embêtaient, notamment plutôt les enfants. Je me suis beaucoup fait embêter, mais à l'école, finalement, ça m'a permis de me faire respecter. Donc, je regrette pas. Plus. Je ne pouvais pas me défendre de manière pédagogique à l'époque. C'était impossible. On ne peut pas exiger ça d'un enfant et les autres ne m'auraient pas écouté. Je n'avais pas le bagage, le bagage qui aurait pu me permettre de me défendre. Et même si je l'avais à l'époque, ça aurait servi à rien.
Mais vous êtes toujours resté à Biel. Hein? Tu es une fille de Biel.
Oui.
Alors moi qui ne connais pas la Suisse, on me dit que Biel est une ville... ouvrière, enfin d'origine en tout cas, il y avait l'horlogerie, c'est aussi une ville mixte, c'est une ville sympa. Est-ce qu'il y a, parce que tu parlais de Genève aussi, mais tu n'es pas une fille de Genève, tu es une fille de Biel, c'est ça ?
J'ai été conçue à Genève, mais
c'est ça.
J'ai grandi à Bienne, oui. Je suis vraiment une biennoise, ma grand-mère déjà est biennoise. Et voilà, c'est vrai qu'à l'époque, on se retournait quand on croisait.
Vous parlez dans les deux langues, alors à la famille, vous parlez en allemand et en français ?
Mon père n'a jamais voulu apprendre l'allemand. Il parlait déjà bien assez de langues, puis je pense qu'il a été un petit peu dégoûté. Avec ma maman, je parlais français. Mon père ne voulait pas. Ma mère est alémanique à la base, mais mon père ne voulait pas qu'elle et moi ayons une langue secrète. Donc, pour rester transparente.
Il a imposé les français à la maison, alors.
D'accord. Voilà, c'est un peu ça.
Alors, on va revenir à nos deux livres. C'est pas celui-ci, mais c'est pour continuer la question de de Stéphanie, nos deux livres n'étaient pas des livres qui étaient prévus. Donc, moi, j'avais évidemment publié beaucoup d'autres livres, mais je ne voulais pas spécialement publier. En fait, je n'avais jamais eu l'intention de publier ce livre qui s'appelle Dictionnaire enjoué des cultures africaines. C'est venu d'une espèce de manque et presque d'une provocation, une sorte de scandale éditorial. Il y a en France une maison célèbre chez Plon, qui a, donc la maison Plon a une collection qui s'appelle Dictionnaire amoureux 2. Donc on donne une carte blanche à quelqu'un qui connaît un domaine. Et donc on peut avoir le dictionnaire amoureux du football, du hip, il n'y a pas le hip-hop, mais de la, je sais pas quoi, de la danse classique, de, je sais pas, des VV, de Montreux, de la Suisse alémanique, du vin, du, tout ce que vous voulez, de Shakespeare, Proust, du Maghreb, etc. Il y a toutes sortes de sujets. Je crois sur l'Italie, il y a quasiment toutes les régions. Je n'ai pas fait le compte de tous les dictionnaires qu'il y a sur la Suisse. Mais figurez-vous qu'il n'y avait pas les dictionnaires de l'Afrique. Et donc, on a dit à Alain Mabanko, on est allé à la maison d'édition, place d'Italie. On est allé voir. Donc, la maison nous a dit, l'éditeur nous a bien reçus. Il a dit, oui, vous avez raison. D'ailleurs, on allait publier un livre, un dictionnaire amoureux et... d'une personnalité française qui avait beaucoup travaillé en Afrique. Donc une personne... mais c'était... Et ils étaient très ouverts, donc ils nous ont donné les épreuves du dictionnaire qu'ils allaient publier sur l'Afrique, qui étaient en fait les mémoires de ce monsieur, qui était un peu... une maison d'édition. Non, mais c'est pas ça, le problème, c'est que c'était plutôt... Si c'était une personne blanche qui était journaliste, qui donnait, par exemple, qui avait un regard journalistique ou géopolitique sur l'Afrique, ce n'est pas un souci à la limite. On pourrait dire que c'est les dictionnaires amoureux de XY, mais là, une expérience journalistique, etc., ou une expertise. Si on le donnait à un agronome, ça n'aurait été pas non plus désobligeant. On aurait une Afrique d'un point de vue agronome et vue par monsieur machin, etc. Là, c'était plutôt les mémoires de monsieur. Donc, je ne vais pas citer son nom. Ce n'est pas important. C'est pas important. Non, il est déjà mort. Mais c'était en fait c'est ce qui était un peu la chose un peu désobligeante, c'était ses mémoires. Donc c'était l'Afrique de papa. Donc comme ce monsieur était un grand monsieur de radio, enfin il avait créé des radios-télévisions. Donc c'était moi et Bourguiba, moi et je sais pas Paul Biya, moi et etc. Donc il connaissait les présidents, il connaissait les institutions, mais il connaissait pas, on va dire. L'Afrique de tous les jours, et donc ça paraissait un peu vieillot, tu vois. Donc on a dit, bon, c'est pas grave, nous on va aller chez une autre maison, et on est allé faire cette maison d'édition, et c'est pour ça qu'on a... Donc c'est tout ça pour vous dire que l'envie de faire, et là où je veux en venir, c'est que parfois, nos discours sont parfois... pas bien reçu parfois par la communauté dans laquelle on est, et on a l'impression qu'on essaie de fabriquer des cultures, Donc parfois en France, je parlerai pas pour la suite, je parlerai en France, par exemple, on nous dit, oui, vous allez recréer du communautarisme, qui est un peu le péché, n'est-ce pas? Comme si parler de soi avec ses particularités, si on est, je sais pas, de la communauté lesbienne, je recrée pas une communauté, c'est mon orientation sexuelle, et c'est normal que je trouve d'autres lesbiens ou d'autres, etc., qui partagent, voilà. Mais donc, ça ne disloque pas les critères, les dangers du communautarisme que la majorité renvoie n'est pas d'abord acceptable. Et deux, les libertés que gagneraient les minorités sont des libertés gagnées pour tout le monde, n'est-ce pas? Si la communauté lesbienne ou LGBT gagne des combats qu'elle mène, ce sont des libertés après qui servent d'autres. Parce qu'une communauté minoritaire, elle gagne des droits pour la majorité. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple des Noirs américains dans les années 60, avec les mouvements des Civil Rights Movement, les droits qu'ils ont gagnés. Les minorités migrantes après, hispaniques, etc., en ont aussi avantage, parce que ça fait jurisprudence, tu vois. Donc cette idée de dire un groupe fait dissension ou fait communautarisme et s'enferme et presque, d'une certaine manière, menace la cohérence du groupe majoritaire ou de la communauté, donc les péchés de communautarisme. Je parle pour la France, il y a ces péchés de communautarisme. Mais d'abord, dans les faits, il n'est pas si réel, quoi, parce que les droits que gagnerait une minorité, les droits que les femmes ont gagnés, tout le monde va en profiter, tu vois. On n'empêchera pas de dire, toi, c'était pour les femmes, tu vois. Donc, les droits gagnés font jurisprudence et servent les autres. Donc, c'était juste pour prévenir. Donc, on les dit plus clairement, vous récréez maintenant. Mais parfois, il y a un peu ces petits... accusation ou cette petite critique, et c'était pour dire finalement c'était même pas une volonté, c'est sans les manques de la société, et c'est là où je vais en venir. Donc qu'est-ce qui avait motivé vous, votre livre, vous l'avez écrit à trois, donc vous voyez,
oui.
Et nous aussi on l'a écrit à deux, hein, donc on voit bien qu'on est dans les dynamiques de groupe, on est dans les dynamiques, c'est pas les travaux artistiques que tu voulais faire, hein, tu t'en fichais de ces livres-là, tu pourrais faire d'autres choses, tu vois, mais ce qui vous a semblé c'est un espèce de manque.
Oui.
Une espèce de béance dans la société. Alors, oui. Est-ce que pourrait dire aussi que c'était né d'une sorte de scandale ou de manque aussi ?
Oui, alors le scandale en question par rapport à notre livre, c'était en 2013, exactement à cette période, au marché de Noël, il y avait en fait un carrousel avec des animaux, mais deux figures très particulières, deux mêmes figures d'esclaves, en fait, comme on peut en voir dans les pubs Suchard. Moi-même, je ne l'aurais pas remarqué, parce qu'il faut dire que je suis née justement à Bien, que j'ai baigné là-dedans, que j'étais pleine de biais, j'en ai certainement encore, mais j'ai au moins l'humilité de le dire. Et ce sont donc Fork, qui a aussi une autre vision des choses.
Tu peux dire qui est Fork.
À Fork Park, justement, elle est c'est là, justement une des coéditrices qui est afro-américaine, elle est poète, donc elle a encore vécu une autre histoire par rapport à sa couleur de peau. En arrivant ici, elle avait l'impression d'être dans les années 40. Les regards, les remarques. Il y a un côté très, très naïf comme ça qui l'a passablement... qui l'agace. Et Francisca, qui est ma belle-sœur, en fait, qui est une personne très, très érudite, si on peut dire ça, qui justement œuvre depuis très longtemps dans ces thématiques par rapport à divers types de discrimination. Les deux ont remarqué cette figure. Moi-même, je ne sais pas si j'aurais fait attention, mais elles ont trouvé pas du tout normal que ça rappelait justement un pan très douloureux de l'histoire et que c'était très dangereux finalement de laisser ce type de représentation sur un carrousel. On a des enfants qui viennent. Voilà, c'est de nouveau un peu banaliser la chose ou la mettre de côté. Ça a été très, très mal vu, surtout par des cliques de carnaval. Donc, y en a même qui ont dit qu'ils allaient écrire des Schnitzelbank. Ce sont ces blagues politiques, mais souvent très racistes, que les gens font des rimes, comme c'est une espèce de slam particulier, pour rester poli. Et donc, ça m'est pas mal retombé dessus, finalement, qu'on soit intervenu. Mais j'ai réussi à garder la tête haute et on s'est dit qu'il manquait quelque chose justement à la population pour pouvoir se permettre de réagir ainsi. Fork a fait des recherches pour essayer de trouver des documents, des livres par rapport à l'histoire noire en Suisse. Francisca aussi, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, Fork est tombé sur un livre, quelqu'un lui dit « Ah oui, il y a en effet un ouvrage d'une femme noire, c'était un de ses livres à elle. » Donc. C'est un petit peu particulier. On a retrouvé des femmes pour parler des femmes noires pour parler de tout ça. Puis Francisca a eu la bonne idée de faire des enregistrements. Et il nous a fallu plusieurs années avant de recevoir les fonds nécessaires pour pouvoir y parvenir. Mais on y est parvenu. On a pu interviewer une femme. Donc les femmes avaient la possibilité de s'exprimer comme elles le voulaient, que ce soit sous forme de texte ou de dessin ou de tout simplement parler, témoigner lors d'une interview. Donc, elle pouvait être totalement libre. Et c'est un sentiment, finalement, je remarque, qui est un petit peu rare de se sentir totalement libre. Et je pense à cette chanson de Nina Simone où elle parle justement de...
Mais comment... Parce qu'il y a... J'ai lu votre livre et donc il y a un effet groupe, même si au départ, c'était un espèce de scandale public de ces carrousels qui vous a poussé à chercher...
À combler, en fait, cette lacune,
ouais. Ouais, les dynamiques parfois inconscientes mais dans la société. Mais après, vous êtes évidemment sorti avec, j'allais dire, des femmes fortes. Comment vous avez choisi ? Parce qu'il y a toutes sortes de femmes. Il y a des femmes d'origine migrante, il y a des femmes qui sont africaines, un peu
pas spécialement métis, comme on dit, mais, mm-hmm. mais des gens qui ont acquis la nationalité ici ou qui étaient oui. des anciennes demandeuses d'asile, etc. Il y a des femmes d'Afrique, mais il y a aussi des femmes du Nouveau Monde, Brésil, folk et américaine, de Detroit, etc. Mm-hmm. Donc, il y a une sorte de nouvelle communauté par l'expérience, cette expérience qu'on a vécue. Il y a une femme du Kenya aussi, je crois. Alors, comment vous avez décidé qui... Vous avez pas fait un trottoir et pris des femmes noires dans la rue. Comment vous avez décidé de rassembler ces gens-là et en quoi les témoignages des unes et des autres étaient plus intéressants que... Alors, vous avez procédé un peu.
On n'a pas choisi. On a posé la question à la première, justement, une Kenyane, c'est celle qui a...
En fait, c'est des femmes des Bielles, alors. Qu'est-ce oui. qu'elles ont comme point commun d'être noires et des Bielles, au moins?
De ce qu'elles se considèrent comme femmes noires.
Se considèrent, voilà. C'est important de se dire, c'est, parce que c'est toute l'histoire de raciser, n'est-ce pas, cette question oui. de la subjectivité. Il n'y a pas, par exemple, esclavagisé, on apprend aux étudiants qu'il n'y a pas de gens qui sont esclaves. Parce que ce n'est pas une condition. Personne n'est esclave. Il y a des gens qui ont été esclavagisés. Mm-hmm. Ils sont esclaves de... Mais ils ont été esclaves. Et c'est, du coup, il y a les gens qui sont... Tu as bien fait de dire qu'ils se considèrent comme noirs ou qu'on considère
oui.
comme noirs.
Oui.
Qui sont, et c'est pour ça qu'on utilise l'expression racisé.
Oui.
Donc la racisation est un fait de groupe, un fait social. Ce n'est pas un fait de nature.
Exact.
Donc, c'est ça. Donc, vos femmes racisées ou se considérant comme telles, comme noires, elles voulaient toutes témoigner. Est-ce qu'il y avait des différences des modalités Comment vous avez procédé?
Je sais qu'une ou deux femmes ont refusé de le faire, ce que je comprends tout à fait. C'est pas évident de mettre une partie de sa vie en avant de cette manière-là. Mais on a posé la question à une première femme que je connaissais depuis longtemps, que Fork connaissait aussi. D'ailleurs, c'est elle qui a sorti cette phrase « I will be different every time ». Ce qui, justement, il y a un terme en allemand « Schuplatisier » de se mettre dans...
Il est en trilingue, hein, il faut le dire.
Oui, il n'y a malheureusement pas tous les textes, mais la partie théorique au départ est en français, allemand, anglais. Ça aurait été sympa aussi en italien ou en romanche, pour faire bien, bien suisse, mais... Non, là, trois langues, c'est déjà beaucoup.
On va chercher des fonds pour la suite.
Oui.
Nous, on a fait les volumes 2, donc vous pouvez faire les volumes 2 aussi.
Ça pourrait être chouette.
J'ai rien dit.
Mais c'est marrant parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui souhaiteraient témoigner. Alors, on a plutôt demandé à des femmes de nous proposer une autre femme qui serait susceptible de bien vouloir témoigner. On ne les a pas choisies nous-mêmes pour rester très neutres. On peut dire ça comme ça, le plus neutre possible. Donc, ça va de... La plus jeune devait avoir 15-16 ans à l'époque, et la plus âgée, on a malheureusement une personne qui est décédée, deux mois après qu'on ait eu l'occasion de l'interviewer, Félicienne. Et on voulait vraiment montrer aux gens que, bien qu'il y ait cette diversité, parce qu'on se doutait bien que ça allait... venir sur le tapis, toutes les femmes parlent quand même, à part une, mais de leurs expériences par rapport au racisme, ou en tout cas, elles parlent de ce qu'elles en pensent, de ce qu'elles ont vécu. Il y en a plus fortement que d'autres. Et c'était beau de voir à quel point elles étaient à l'aise, finalement, de pouvoir obtenir cette plateforme pour s'exprimer sans qu'on leur demande si oui, mais tu crois pas que ces fameux oui, mais... qui vont très mal, finalement. Donc là, j'ai même eu l'honneur d'interviewer ma thérapeute, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Elle est en couverture de livre. Mais je la remercie de m'avoir aidée. Et c'est marrant parce que c'est elle, maintenant, qui me remercie d'avoir pu, en fait, parler de son expérience au Brésil en tant qu'activiste. Donc j'ai appris plein de choses sur plein de personnes. Et une fois, on m'a demandé, lors d'un tour littéraire, on m'a fait la remarque, comme quoi c'est dingue de voir à quel point toutes ces femmes ont des vies différentes. Je fais, mais comme chaque être humain. Après, je montre dans le public, je fais comme vous, et tout le monde a des intérêts différents, tout le monde a des souffrances différentes, des goûts différents. Pas que les femmes noires. Mais là, je l'ai pris un peu dans l'autre sens, parce que souvent, on pense que ce sont plutôt les personnes blanches qui font plein de choses, or qu'en fait... Non, la différence peut-être, ce sont les obstacles. Les obstacles, les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais rien que le fait de parler de ce livre, avant qu'il sorte, je n'en ai pas parlé même à certains amis, j'avais peur qu'on me fasse des remarques déplacées. On m'a déjà dit que bon, si ça te fait du bien, pourquoi pas. C'est un peu dur quand même, donc je préférais pas trop en parler avant qu'il sorte. Et quand il est sorti, là, les gens ont finalement très bien réagi. Parce que ce n'est pas un livre qui se veut agressif, ce n'est pas pour se victimiser, c'est simplement parler de ce qui se passe, tout simplement. C'est ce que j'ai aussi ressenti. Donc malheureusement, je n'ai pas réussi à le lire en entier, Notre France Noire. Mais comme mon père, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, en regardant son acte de naissance, parce qu'il m'a toujours parlé d'une Mali, je ne savais pas qu'en fait, il était encore né sous le Soudan français, donc une colonie. Donc je ne veux pas dire que je comprends un peu mieux les agressions de mon grand-père, mais je comprends mieux les raisons. Ça, est-ce qu'on peut les excuser? Je ne sais pas. Je ne sais pas tout ce qu'il a vécu. Mais j'ai eu beaucoup plus de liens avec la culture française, finalement, de par mon père. Alors, des Michel Leeb et autres, enfin, ça me parle totalement. Je lisais la table des matières, en fait, à la fin. C'est incroyable, parce que finalement, il y a encore plein d'éléments qui sont là-dedans, qui font aussi ce que je suis moi-même aujourd'hui en Suisse. Et merci.
Non, mais c'est un peu l'idée. Ce n'est pas tant pour d'abord faire groupe ou ethnie ou communautarisme ou pour exclure d'autres. Par exemple, dans notre dictionnaire, souvent les gens disent mais il y a Gide dedans et Gide est blanc. Il y a Rimbaud dedans et on a fait exprès de mettre il y a Jean Rouch dedans, etc. Et c'est juste pour faire communauté. Par exemple, pourquoi on a mis Rouche ou Rimbaud ou Gide? Mais parce qu'ils nous ont apporté des choses. Et d'abord, c'est puisqu'ils nous semblent des auteurs. J'ai dit souvent, moi, j'ai choisi mes oncles et mes grands-pères, ma généalogie littéraire, c'est un artiste, c'est ça. Il sort justement de l'oncle du clan, et de l'oncle aussi de son groupe, voire de sa race, ce qu'on peut appeler la race. Mais la race, on parle ici de racisation plus que des races. Mais donc, moi, quand j'ai décidé de mettre Arthur Rimbaud dedans, c'est d'abord pour des raisons sentimentales aussi, mais ce qui m'a le plus émouvant, Arthur Rimbaud est né, pour les gens qui ne le sauraient pas, est né dans les Ardennes, à Charleville-Mézières. Il a été un poète magnifique à 18 ans déjà, comme vous savez, il est parti en mythe, et après il s'est allé s'enterrer en Afrique, par chez moi, au Harar. Et à la fin, quand il va mourir, il avait une blessure à la jambe, il va revenir à Marseille, et il a dit aux gens, à l'époque, il était dans un hôpital, il a dit ben, je vais mourir là-bas, moi. Je vais retourner chez moi, là-bas, c'est l'Abyssinie. Donc, l'Éthiopie, tu vois, c'est pas. Et donc, il voulait mourir chez moi. Donc, forcément qu'il mérite cet homme d'être dans mon pays. De même que j'ai, comme je cherche des oncles, j'ai même trouvé un grand-oncle ici. C'est un homme de Thun qui est enterré chez moi, là-bas, enfin, presque à côté de chez moi, qui s'appelait Werner Munziger, qui était un explorateur et un colonisateur. Ben, oui, il était. Enfin, la Belgique n'avait pas de forces colonisatrices, mais il travaillait pour les Italiens ou pour les Anglais, je ne sais plus d'ailleurs, j'ai oublié. Mais en tout cas, il est mort là-bas en étant explorateur et il est enterré du côté de ce qu'on appelle l'actuelle Érythrée, tu vois. Ben, c'est un gars de chez moi. Mais non, c'est lui qui a décidé, tu vois. Donc là, voilà les paris qu'on fait, nous. Je pense que ta belle-sœur, elle est blanche, c'est ça?
Francisca, oui.
Oui, bah voyez, donc on voit bien que c'est pas une histoire de. Tu as travaillé avec ta belle-sœur parce qu'elle a une expertise, outre qu'elle soit ta belle-sœur, belle-belle-sœur, parce qu'elle a une expertise, elle connaît l'histoire, donc c'est même elle l'espèce de cerveau ou l'intellectuel de la bande, n'est-ce pas? Donc on voit bien que c'est pas une histoire de race, c'est une histoire de conditions et de communautés, d'alliés aussi.
Oui.
Donc, Arthur Rimbaud, et puis pour finir sur Arthur Rimbaud, à Djibouti, on en a même marre, parce que tout s'appelle Rimbaud. Hein, parce que la place principale s'appelle Rimbaud, les centres culturels s'appellent Rimbaud, etc. Donc, vous voyez, il est même peut-être plus présent dans l'esprit à Djibouti que Charleville-Mézières. Donc, vous voyez, on voit bien. Voilà. Donc, c'est tout ça pour déconstruire les espèces des enfermements. Donc, l'art, c'est de choisir, justement, les artistes, c'est de choisir leurs oncles, leur généalogie, leur famille. Et leurs alliés aussi, pour faire. Donc, ça me paraissait nécessaire de dire que ta belle-sœur était une biennoise ordinaire, on va dire, et que ce n'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire de conditions. Alors, donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est à peu près aussi dans les mêmes. Donc, dans ces dictionnaires de la France noire, on est allé chercher. Alors, les dictionnaires, c'est l'avantage que ça, c'est aussi. Ça fait de la vulgarisation. Et ça fait une espèce de promenade. Donc on va se promener dans l'histoire et on dit, ben alors, à qui on va donner une rue, à qui on va donner, n'est-ce pas, comme un peu dans mon roman, vous voyez, on fait ça, son panthéon. Et parfois, l'histoire a oublié, évidemment, et puis comme nous parlons d'une partie, d'une population minorée, hein, puisqu'on parle de minorité, bah, évidemment, c'est des gens qui ont été oubliés, tu vois. Et donc, on les remet dans les panthéons. Je suis fort aise que le président Macron, par exemple, ait mis Madame Josephine Baker, qui est américaine dans le Missouri, mais qui était une résistante et une femme gaulliste. Ça, c'est une partie de sa vie. Elle a été aussi une grande artiste du musical. On la connaît avec sa banane, n'est-ce pas? Et elle a été aussi une châtelaine dans la Dordogne où elle a élevé 26 enfants, etc. Donc, vous voyez, elle a plusieurs vies. Et M. Macron vient de la mettre au Panthéon. Mais il y a plein d'autres que nous, on a mis dans notre Panthéon. Et c'est un peu ça, l'exercice, c'est d'aller chercher... les tontons, les tantines, les grands-mères, les grandes sœurs. Et donc, vous aussi, vous avez trouvé, c'est là où je voulais en venir, parce que vous avez trouvé cette femme camerounaise, de quelle période déjà, qui est dans la Suisse noire, qui était à Bâle
Henriette Alexander.
Oui, par exemple. Voilà. Donc, vous faites aussi votre généalogie. Oui. Et l'idée aussi, et j'imagine, c'est la question que je vais te poser, c'est pour que ces livres aussi donnent d'autres projets, tu vois, parce qu'il faut que les dictionnaires, je ne sais pas, les jeunes... Afro-futuriste que j'avais trouvé qui chantait en allemand bernois, bah, ils sont contents d'avoir un livre comme ça, parce qu'ils vont trouver des tantes dedans, vous voyez, parce qu'ils ont 26 ans, il y a déjà la génération des quadras et des quinquas qui ont déjà fait des choses. Et donc l'idée c'est ça, c'est dans cet espace qu'on appellera Afro-Suisse par exemple, bah, c'est de trouver des généalogies, des histoires, des tontons, de toutes sortes d'ailleurs, de tout horizon, puisqu'il y a des Brésiliens, des Américains, Nord-Américains et des Africains, etc. Et donc, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que ça a donné comme empowerment, comme on dit déjà, des pouvoirs, des réalisations, des pouvoirs d'action aux gens qui ont témoigné et quelles pourraient être les suites vous avez déjà fait une association, etc. Quelles sont les suites qu'est-ce que le dictionnaire a accouché?
Comment dire Alors, il est sorti en juin 2020. Donc, c'était à peu près à cette période-là, quelque temps après qu'il y ait eu l'assassinat de George Floyd. J'imagine que ça a eu une influence. Les gens étaient à la maison, beaucoup plus enclins à peut-être écouter, regarder.
Il y a eu une grosse émotion internationale et il y a eu une grosse communion et beaucoup de gens ont pris conscience. Oui. Par exemple, aux États-Unis, les gens qui manifestaient aux États-Unis pour George Floyd, précédemment, dans les décennies avant, c'était beaucoup des Noirs, et là, il y avait beaucoup, tu vois. Donc, ça commence à faire masse critique. Et en gros, le combat contre le racisme n'est pas un combat que pour un groupe, non, c'est un combat pour toute la société.
Ça concerne tout le monde.
Donc, j'imagine que cette émotion-là... Alors, pardon, je t'ai interrompu sur George Floyd.
Ah non, pas tout. Alors, c'était... l'émotion. Bon, j'ai pleuré. En fait, j'ai pleuré de joie, de tristesse, enfin, espérer que ce ne soit pas juste une mode, que ce ne soit pas juste le truc du moment de pas être raciste ou autre. J'étais très surprise, en fait, des réactions très, très positives. La seule question plus ou moins négative, c'était « Mais pourquoi le titre est en anglais ?» Donc, c'est super. J'aurais pu m'attendre à autre chose. Et on a fait pleurer des gens. Ça, je ne m'y attendais pas. Des Blancs. Ça touche, ça fait plaisir. Ça veut dire que la roue tourne, je ne sais pas. Et, donc, il y a eu un collectif afroféministe viennois, dont je fais partie, qui s'est créé. On m'a demandé...
Kabak.
Oui. Et une partie de Kabak travaille pour Mosaïque, justement, cette association qui lutte contre les discriminations, qui fait de la prévention. Et des liens se sont créés entre les femmes... On a la différence en Suisse, c'est que les personnes ne sont pas arrivées par paquet, comme aux États-Unis. La Suisse se vante de ne pas avoir eu de colonie. Donc, les personnes étaient plutôt isolées. Mon père n'était pas forcément dans une communauté, parce que la plupart des communautés, petites communautés qu'il y avait, étaient très religieuses. Mon père n'était pas croyant. Il était musulman, mais les communautés étaient évangélistes, donc et puis il n'était pas croyant, donc ça n'allait pas. Donc on était toutes et tous un peu isolés, comme ça, il y en a qui se connaissaient, on se saluait. Attends, je saluais les Noirs et les policiers. C'est un peu bizarre.
Aux États-Unis, on appelle ça le nod. Quand deux Noirs se rencontrent dans une rue où ce n'est pas l'habitude, ils sont une minorité, Ils font le nod, ils font comme ça. C'est juste un signe de reconnaissance.
Oui.
Un peu animal, tu vois, on appelle ça le nod.
Oui, je vois. On se comprend, on sait. Ouais.
Quand il y a plus de noir, bah après on ne fait plus les notes, ça devient...
maintenant, on ne le fait plus non plus. Je devrais le faire toute la journée.
Les Africains, la tradition africaine, si j'ai rencontré une Diara, non seulement on ne fait pas les notes, nous on s'arrête et on raconte.
Oui.
Et alors comment il va le père ? Et comment il va la mère ? Et comment il va le grand-père ?
Oui.
Et Diara, et je répéterai ton nom. Et Diara, comment va Diara ? Et le nom de ta famille. Et les Wadawadego.
En fait,
c'est ce que disait comme ma grand-mère tout à l'heure, elle embrassait la personne. C'est une manière de reconnaître pleinement la personne.
Oui.
Et donc les salutations, des fois, moi qui suis devenu blanc, j'ai dit, raccourci les salutations. Quoi.
Salut.
La vraie, tu vois. Et Wabiri, et la grand-mère de Wabiri. Oui, c'est bon.
Mais c'est marrant parce que j'avais cette tendance à saluer. Pardon, je voulais pas.
Non, mais je veux dire. Et alors, est-ce que Diara, tu as des gens qui te saluent Diara comme ça dans la rue ?
Il y en a qui l'ont fait, oui. Il y en a qui l'ont fait. Et ce que je trouve charmant, c'est de demander à la personne si elle va bien. Et c'est quelque chose que j'ai reproduit, comme mon père, comment ça va, la famille et tout ça. Et après, c'est toujours plus court. Donc, je demandais aux gens, salut, ça va ? Et on pensait que ce n'était pas du tout sincère.
Pas suisse, non, parce que suisse, ils sont un peu pressés, non ?
Oui. C'est peut-être ça, pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Et oui.
Alors, tu as dit mosaïque et kabak. Vous faites des ateliers ?
J'en ai eu un il y a 3 semaines. Dans une classe d'enfants de 6e année, c'est-à-dire ils avaient à peu près 11-12 ans.
D'accord.
Alors j'interviens soit... Là, j'ai un professeur qui m'a demandé, un instituteur qui m'a demandé d'intervenir pour sa classe, plutôt pour faire de la prévention. Il n'a pas eu l'impression qu'il y a eu vraiment de gros problèmes. Il y en a d'autres qui nous contactent pour justement faire comprendre aux élèves que certaines remarques, certaines blagues, certaines choses ne se disent pas et pour quelles raisons on ne le fait pas. Donc, je travaille dans ce sens où je ne vais pas les marteler avec des histoires d'esclavagisme, mais je parle de ce que les gens ressentent. Parce que tout le monde est discriminé, privilégié à un moment ou à un autre, plus ou moins. En une journée, on peut être privilégié et désavantagé à plusieurs reprises. Et puis, c'est ce que je leur communique. Après, je leur demande s'ils ont vécu des situations compliquées et autres. Et puis... En fait, ça dépend un petit peu de la demande. Mais j'ai eu passablement de lectures aussi par rapport à des demandes de présentation du livre.
Ah, ça m'intéresse, parce que je suis prof, donc.
Oui.
Comment sensibiliser des étudiants, les élèves, les très jeunes, je ne les pratique plus, et après, on aura aussi la question sur la démocratie, parce que comme ça, Stéphanie va être intéressée. Mais alors, pour les enfants, donc, vous les initiez à... la sensibilité au fait que l'autre, ce qu'il peut ressentir. Mais est-ce qu'il y a des travaux pédagogiques qui essayent aussi de montrer que, même si la Suisse n'a pas une décolonisation, mais vous voyez, en France, par exemple, on enseigne aux enfants d'origine migrante, comme on dit, la France, c'est ce qu'on fait, au fait que la France, elle est de toutes les couleurs. Et on peut présenter des auteurs qu'on peut faire lire, qui viennent de la migration, comme on dit. Est-ce qu'il y a en Suisse aussi des travaux de ce type-là ?
Oui, alors il y a de la littérature infantile ou enfantine.
Enfant pour la jeunesse.
Voilà, exactement, que je présente. Donc j'ai eu la conscience de rencontrer une femme qui produit justement des livres pour enfants, mais ce sont des histoires toutes normales. Ce n'est pas du genre « Mamadou n'est pas de chez nous » ou bien, je ne sais pas, ce genre de choses. Ce sont des enfants issus de la diversité qui vivent en Suisse et puis qui font des jeux d'enfants, qui ont des problèmes d'enfants. Il n'y a rien de, comment dire, qui puisse nous faire penser à là, il y a la question du racisme qui vient. Et je trouve ça, elle s'appelle Beloti Nkashama. J'ai eu l'occasion de l'interviewer, d'avoir une discussion avec elle lors du festival Black Helvetia, que certaines femmes de Kabak, dont certaines femmes de Kabak faisaient partie, justement, par rapport à l'organisation. Donc, je leur montre ce genre de livres. Il y a aussi des livres, en fait, qui expliquent le racisme aux jeunes, en français, en allemand. Il y a une série de livres petites et grandes, où il y a, par exemple, l'histoire d'Aretha Franklin. Alors, il n'y a pas que des personnalités noires, il y a plusieurs personnalités, mais aussi il y a aussi des hommes, bien sûr, Martin Luther King. C'est expliqué de manière assez neutre, mais claire. Donc, parce que j'ai une petite fille qui m'a demandé, en lui montrant Martin Luther King, mais pourquoi il se fait arrêter par la police ? Parce qu'elle a, elle a compris que le type faisait rien de mal. Et j'ai dû me retenir de pleurer, là. Je fais, je sais pas. Ah, je sais pas, c'est, tu vois, c'est injuste, n'est-ce pas? Ouais, elle a trouvé ça. Quand on remarque qu'avec des choses simples, les enfants comprennent, on se demande pourquoi les adultes ne veulent pas changer leur point de vue. C'est comme avec cette histoire de Tech Choco. J'ai bêtement essayé d'aller parler à des gens de l'UDC, des jeunes SVP. C'était un peu dangereux, en fait. J'ai terminé la journée en faisant une monstre crise d'angoisse. J'ai cru que j'étais en train de mourir tellement j'ai eu mal. Ah non, c'est comme ça, ça change pas. Borné. C'est pour ça que je préfère travailler avec des enfants, parce que je ne pense pas avoir les épaules pour supporter, en fait, ce côté borné que certaines personnes adultes ont. Donc, on le fait comme ça, puis je le fais d'une manière assez légère. Ils se sentent pas mal à la fin de la...
coupable. En France, dans ce type d'atelier, on invite ce qu'on appelle « role model » en anglais, des gens comme Thuram, etc. Wow. Donc j'ai vu que l'équipe suisse a aussi des gens d'origine africaine, mm-hmm. comme Akadji, etc. Donc quels sont vos role models, et vous avez, je sais que vous avez accueilli, d'ailleurs elles sont dans nos dictionnaires, dans les deux dictionnaires des femmes maintenant, qui sont aussi des role models comme... Rokaya Diallo ou mm-hmm. Amandine Gay.
Oui. Ben d'ailleurs,
Ayana on Kamura, l'a invité. Etc. Oui. Donc, alors, quels sont d'abord le rôle modèle suisse qu'on peut inviter dans les écoles? Parce que y a dans le football, il y en a déjà plein. Mais
c'est une super idée. Je la prends.
Il faut me payer en France suisse.
Non, ça, je vais y penser. Franchement, je vais y penser. Parce que c'est vrai que. On a quelques personnalités, mais comme je dis, tout le monde était un peu isolé. Puis c'est là, maintenant, que j'ai réalisé beaucoup, beaucoup de choses et que beaucoup de personnes noires pensaient finalement comme moi. Mais moi, en tant que métisse, j'imaginais que les noirs, si on peut dire ça comme ça, pas les métisses, se disaient que j'avais plus de chance, parce que je suis à moitié blanche. Mais c'est encore une autre problématique. Il y a un petit côté schizophrène.
Tu n'es pas à moitié, j'ai dit ça, mais j'ai...
Ah non, tu n'es pas j'ai mon papa
t'es qui est... Tu es 100%.
C'est ça, voilà.
Tu es une Diara et une... Comment c'était son autre nom?
Je pense que ça vient des gens. Mmh. On a tellement eu... Les gens ont tellement eu ce plaisir à me nommer, à dire ce que j'étais, ce que je devais faire. Je pense que j'ai perdu certaines notions, en fait, où je n'ai pas réussi à me construire. Il y a certaines parties que je n'ai pas pu construire.
Non, mais ce n'est pas juste ça. Bon, moi aussi, j'ai des enfants, comme on dit, biracial aux États-Unis. Mais je leur dis, ben non, vous n'êtes pas moitié machin, non, vous êtes 200%. Vous êtes 100%
ça.
Ah,
ça c'est beau, 200.
100% de votre père et 100% de votre... Vous êtes 200%, pas 50-50, tu vois.
T'as raison.
Et des fois, ils disent oui, mais... Non, ils ne me croient pas. Mais en fait, c'est juste... C'est justement, la culture, ça fait de ça, tu vois. C'est-à-dire, pourquoi on déciderait que c'est moitié-moitié? Et si j'ai un grand-père, c'est quatre grands-pères différents, je suis un quart, etc.
Oui, c'est vrai, ça devient compliqué.
Donc, on avait cette vision-là. Aux Antilles, ils ont ça. Hein, on appelle ça les carterons, etc. Oui. Et parce qu'à cette époque-là, on nommait que la partie blanche. Oui. Et donc, c'est à partir de la partie blanche qu'on nommait le reste, tu vois.
Oui.
Quand j'étais carteron, ça voulait dire quoi?
Comme mes enfants.
Voilà, j'étais un homme avec un quart de... Parce que la norme était la blancheur, n'est-ce pas? Et donc, j'avais un quart de sang noir ou trois quarts de sang noir, etc. Donc, c'est à partir de ça qu'on nommait le reste, la division. Mais on peut très bien décider qu'une personne qui a deux parents, donc on peut dire qu'elle est 200% au lieu de dire qu'elle est 50-50. Tu vois.
Oui, c'est beaucoup plus joli, en fait. Bah ça fait beaucoup plus de bien.
Bah oui. Donc on va déposer un article de loi, peut-être qu'on va se faire aider par la Maison de la démocratie, pour dire que ce sont des 200% et pas de 50-50. Ouais. Mais alors, quel est l'héritage? Donc comment cette histoire de rôle modèle qu'il faut chercher? Mais est-ce que c'est quand même... J'ai vu beaucoup de gens noirs à Genève, donc c'est pas aussi rare de là. Donc je veux dire, comment on peut qualifier ça dans... Parce que la Suisse est très partagée, enfin très différente. Donc la condition d'être noir ne doit pas être la même si je suis dans le Grisons ou si je suis à côté dans la banlieue de Genève, non?
Non.
Est-ce qu'il y a une... Voilà, je pose une question. Hein. Mmh.
Non, mais c'est pas la même, je l'ai constaté moi-même, ma sœur également. À Genève, il y en a depuis bien plus longtemps qu'à Bienne, ça se ressent. Dans les Grisons, je sais pas. J'ai eu justement une camarade qui a voulu être toute sympa, puis qui m'a dit early. En fait, je vais pas dire le N-word, mais en petit. Mais c'était mignon pour elle de m'appeler comme ça. Et, là-bas, j'irai pas forcément me balader partout. Maintenant, j'essaie de trouver de plus en plus de zones de confort, puisque ça n'a pas souvent été le cas. Je m'en suis rendu compte plus tard. Mais il y a des coins où il y en a, plutôt en francophonie, qu'on en trouvera plus à Lausanne, Genève, Neuchâtel. Zurich, oui, aussi, parce que c'est une grande ville. Mais après, les villages...
Mais ils n'ont pas aussi... En fait, c'est pour ça que c'est pas une... C'est une condition, comme dirait, vous voyez. Parce qu'il y a des gens qui sont suisses, il y a des gens qui sont migrants d'hier, il y a des gens qui sont... On a des Brésiliens, etc. Donc, ce qu'ils ont en commun, c'est pas tant... C'est comment on les voit et comment ils se voient, vous voyez.
Oui.
C'est pas les statuts juridiques, tu vois, parce que... Un Suisse comme toi n'a rien, une Suissesse comme toi n'a rien à voir avec un réfugié d'hier, tu vois, c'est pas.
Non.
Ben, voilà, vous voyez. Oui. Donc c'est comment cette perception-là, et s'il y a des choses à faire ensemble entre régions, etc., entre cantons, entre. Tu sais, est-ce que votre association, elle travaille avec d'autres associations aussi?
Oui, aussi oui, on est en lien, mais également avec le collectif Moisy qui est en France, à Paris. J'ai justement des personnes de mon collectif qui ont rencontré Rokaya Diallo, qui lui ont offert le livre. Wow. Mais en Suisse même, en effet, il y a des connexions entre collectifs. Après, on le sait, un collectif, c'est pas forcément un havre de paix. Tout le monde ne s'entend pas forcément. Tout le monde n'est pas toujours d'accord sur certaines terminologies et autres. Comme people of color, il y en a qui acceptent pas. Il y en a qui acceptent le terme mulâtre. Moi, moins, par exemple, mais ça ne tient qu'à moi. Enfin, on essaye, mais je pense que c'est... J'ai l'impression que c'est encore jeune. Il y a peut-être de la maladresse aussi, je ne sais pas, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas forcément péjoratif, on en apprend tous les jours, mais les choses avancent. Les choses avancent, mais comme je disais avant, elles avancent, mais il y a quand même une grosse part de fatigue, même si on réalise beaucoup de choses qui nous font... comprendre que c'est pas que de la parano, c'est pas simplement notre imaginaire que le racisme existe, mais le fait de réaliser que il y a ça en fait qui en fait qu'il y a plein de choses dont j'ai été accusée où je n'étais finalement pas coupable. J'ai 20 ans de thérapie, moi j'ai commencé à mes 6 ans, mais toutes ces années de thérapie, c'est pas parce que je suis tout simplement je sais pas trop sensible. Et il y a encore ça, cet élément, en fait, de pouvoir aussi m'occuper de moi, de ma famille, qui est particulièrement compliqué, parce que je réalise beaucoup de choses. Donc, j'ai créé de nouvelles craintes. Et c'est des fois difficile d'en faire encore plus. Mais par contre, je vais garder cette idée de prendre une personne connue.
Role model.
Un role model prominent, notre prominent.
Puis de regarder l'équipe de foot suisse. Oui. Est-ce qu'on a combien de temps?
Oui.
Oui.
D'accord.
Donc, préparez vos questions. Est-ce que j'ai bien lu, tu t'es présenté aux élections à une époque ou...
On m'a demandé.
Parce que là aussi, plus sérieusement, la question, ça serait comment on peut aussi médier dans le monde institutionnel et notamment politique, sans évidemment être un tokenisme, comme on dit aux États-Unis, tu vois. Parce qu'en France, on a eu des gens, si je donne, pour juste reprendre l'exemple, en France, et un peu rafraîchir les mémoires, on avait eu récemment un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Papendjaye, qui est d'origine, des mères d'origine sénégalaise. Je connais parfaitement Pape et sa sœur, Marianne Diaye, qui sont une très belle écrivaine. Ce sont des Français tout à fait ordinaires, sauf qu'ils ont un papa d'origine, un papa sénégalais, et dont ils n'avaient pas d'ailleurs d'excellentes relations, ou ils n'avaient pas des relations continues, n'est-ce pas? Donc,
oui.
Pape, par exemple, a découvert sa condition, sa couleur, quand il était en doctorat à l'Université de Virginia aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire combien il est. Et Marianne Diaye n'a parlé de ces conditions-là que de manière un peu... Donc, ce n'est pas des gens qui étaient activistes de la cause noire, etc. Tu vois, c'était des Français ordinaires qui se trouvent paraître, par ailleurs, avoir un père d'origine sénégalaise. Et quand le président Macron avait choisi Pape Ndiaye, on avait beaucoup justement parlé de tokenisme, parce que Pape Ndiaye, précisément, a travaillé sur cette question. En tant qu'historien, avait parlé de la condition noire, tu vois.
Oui.
Et après, il a été enlevé très vite pour d'autres raisons. Mais donc, la question est la suivante. Parfois, les minorités, comme on dit, qu'elles soient sexuelles ou raciales, trouvent aussi amènent leurs débats ou leurs demandes sur la scène publique et s'engage dans la politique. On voit des exemples en Allemagne, en France, en Italie. Je connais moins la Suisse. Mais donc, tu avais fait un petit parcours politique, ou est-ce que tu peux nous dire, ou d'autres exemples, qu'il y ait des gens qui ont fait, si c'est même pas toi, s'il y a d'autres qui ont fait, etc. Donc, oui. Comment, voilà.
Alors, en tout cas, oui, une des premières conseillères, la première femme noire, Thiel Offray, c'est son nom. D'ailleurs, il y a une place à Neuchâtel qui a été remplacée par, c'était la place de Pury, je crois. Je confonds des fois entre de Pury et Agassi. Agassi, c'était Agassi. Ils ont renommé la place Thiel Offray. Et elle-même, j'ai encore lu. Oh, pardon. J'ai lu quelque chose par rapport à elle dernièrement encore. Ça n'a pas été facile. Elle s'est fait insulter. C'est comme si ça faisait partie du paquet. Mais moi, en fait, c'est quelqu'un qui est journaliste, Mohamed Hamdawi, qui vit à Vienne, et qui est également dans la politique, qui m'a proposé, en fait, de mettre sur une liste pour aussi remplir les listes, c'est clair, mais en fait, chaque parti fonctionne de cette manière.
Donc, c'est du tokenisme, non ?
Pardon ?
C'est du tokenisme. Enfin, on cherche juste une personne pour sa couleur.
Mais, comme, je pense qu'il ne l'a pas fait par rapport à ma couleur. Mais peut-être pour qu'il y ait plus de personnes noires qui représentent. Je pense, mais lui-même est noir, donc je ne l'ai pas du tout pris comme... Si ça avait été une personne blanche, peut-être je me serais posé plus de questions, mais j'ai confiance en lui. Et ce qui est drôle, c'est que je connais beaucoup de gens à Vienne. J'ai pas fait de pub et j'ai failli faire partie du groupe. Et or, c'était, je me vois pas dans la politique. Et j'ai eu confirmation dernièrement parce que j'ai donné en fait on m'a demandé de donner une sorte de formation sur le féminisme biennois, l'afroféminisme biennois. C'est quelque chose de super frais, super jeune. Mais je vais parler de quoi ? Mais finalement, comme c'est frais, jeune, j'ai un petit peu carte blanche. Mais une des premières questions, c'était oui, mais il y a aussi le racisme anti-blanc. Donc, je sais pourquoi. Je n'ai pas envie de faire de la politique ici. Je n'ai pas les épaules.
Je sais que les personnes se font... Mais le racisme anti-blanc, il y a les institutions, il y a la police. Pourquoi on te demande à toi de...
Ah, mais c'est pour provoquer.
Oui, bien sûr.
Oui, donc, parce que ce que je trouve compliqué, c'est que si je pense que si une personne noire s'annonce en politique en Suisse, on va tout de suite penser que cette personne a des revendications par rapport à sa communauté. Justement, ce que tu précisais avant, cette histoire de communautarisme, bah, peut-être oui, un peu, oui, finalement. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, si des personnes ont le courage de se lancer là-dedans, tant mieux. Moi, j'ai le courage de parler ici, de faire ce genre de choses, d'intervenir en classe. Mais la politique, je ne pourrais plus, pas, franchement pas. Mais, oui.
Ah ben, les partis suisses perdent quelqu'un de valeur. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas comment procéder. Oui.
J'aimerais savoir comment notre écrivain, vous monsieur, votre voix, votre curriculum, devenir écrivain, fait les séduites littérature. C'est ça qui m'intéresse, parce que ce n'est pas tout le monde qui devient professeur littérature.
Est-ce qu'il y a dans votre livre ?
Pardon, est-ce qu'il y a dans mon livre ? Pardon, je n'ai pas quoi.
Et en plus de la question de madame, ce qu'il y a dans votre
livre ? Ah oui, bien sûr. Oui, moi, alors oui, bien sûr, je vais parler en longueur, en large, mais comme j'avais beaucoup parlé ces derniers temps dans mes différentes venues, comme on disait hier même, j'avais un groupe de doctorants. Donc, ce soir, je faisais exprès de mettre en valeur ma collègue et amie Myriam. Mais pour revenir, moi, j'ai publié, comme on vous l'a donné dans la présentation, je suis un vieil écrivain. J'ai publié mon premier livre en 1994. Qui s'appelait Les Pays sans ombre, je crois qu'elle l'a dit. Cahiers nomades en 96, Balbala, un premier roman en 97, et j'ai eu la gloire de faire la première trilogie littéraire faite par un Djiboutien, entre 20 et. Je crois que les deux premiers livres étaient traduits en allemand, et ça existait chez un éditeur de Munich qui s'appelait Marino Verlag, et le livre s'appelait La légende du soleil nomade. Des légendes von Nomadenson, je crois. Donc voilà, j'étais dans les dans les plateformes depuis un certain temps. Après, j'ai fait du travail sur le Rwanda, etc. Aujourd'hui, j'enseigne la littérature et je suis, j'ai une vingtaine de livres. Moi-même, je suis le pur produit de l'école française, puisque je viens de Djibouti, la dernière colonie française à être décolonisée. Et j'ai eu le bonheur d'avoir reçu cette langue parce que j'appelle les barbichettes de la Troisième République. La France est faite sur les modèles, et je le dis ça sans aucune ironie, la France a un modèle qui est sa langue. C'est en fait avec sa langue qu'elle avance, elle n'est pas plurilingue, elle est monolingue, et y compris quand dans la colonisation, elle a importé cette langue-là. Donc d'un côté, évidemment, elle a imposé au détriment des autres langues, c'est évident. Mais de l'autre côté, elle a fait aussi ce qu'on appelle la francophonie d'une certaine manière, et ces millions de gens qui écrivent aujourd'hui en français, avec leur coloration, avec leurs accents, avec leurs particularités. On n'imagine pas combien la langue française va être portée plus tard, et d'ailleurs, y compris pour le Suisse francophone, par des gens qui ne sont plus des Français. Aujourd'hui, le plus grand pays francophone n'est plus la France, c'est le Congo, la RDC. Donc on voit bien que l'héritage de la langue et le dynamisme de la langue française va être porté plus tard par des gens comme moi, déjà. Mais c'est déjà fait, en fait, c'est déjà le cas. Mais voilà, en tout cas, j'avais choisi exprès de focaliser sur la question des femmes suisses racisées et de profiter de l'expérience de ma camarade Diarra. Mais comme moi, j'avais déjà parlé. Mais en tout cas, voilà, le livre que j'ai co-écrit avec mes deux autres collègues, donc mon écrivain ami Alain Mabankou et un historien, donc vous voyez, là, il est blanc, lui, qui s'appelle Pascal Blanchard, c'est un breton, qui est un historien, d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'était de faire un livre de vulgarisation, un dictionnaire, une carte blanche, qui, justement, dont le principal sujet, c'est la production, l'apport des personnes françaises noires. Qu'elle soit. Et donc, en gros, on le retrouve comme un peu en Suisse aussi, soit les gens qui sont dans l'histoire ancienne, on va dire, qui sont français depuis très longtemps, donc ça, c'est par les faits de l'esclavage, qui sont français depuis les 16e, 17e siècle, ce sont les gens caribéens, Guadeloupe, Martinique, etc. Et après, vous allez avoir les enfants de l'Empire aussi, des gens qui sont comme des Djibouti. Donc, ce sont les deux courants, on va dire, historiques des Français noirs. Soit ils viennent de l'outre-mer, enfin, ils sont soit caribéens, soit africains de l'Empire. Parfois post-coloniaux, parfois pas. Donc voilà. Et je l'ai fait d'ailleurs pour mes propres enfants, puisque j'ai, comme disait, des enfants métis. Il faut bien qu'ils sachent qu'il y a la France n'est pas une couleur, la France est une histoire, la France est un projet politique, et la France avait toujours eu aussi des populations noires. Pas toujours d'ailleurs victimisés. Hein. Par exemple, dans les années 40, non, même plus tard, nous avions pendant 12 ans un président du Conseil, c'est-à-dire la deuxième personne, le deuxième personnage de l'État, qui était Gaston Monoro, qui était un Guyanais, vous voyez. Beaucoup d'hommes politiciens qui vont devenir les héros des indépendances étaient des députés français. Je parle notamment Houphouët Boigny était député français, Senghor était député français, est devenu académicien. Et Senghor, un peu comme Rimbaud ne voulait pas rentrer à Djibouti, pardon, ne voulait pas rentrer à Charleville-Mézières et rester en Éthiopie, Senghor, quand il est mort, il est mort en Normandie. Moi, j'habitais en Normandie, et chez sa femme d'ailleurs, dans un petit village normand. Et ce n'est que plus tard que ses cendres ont été ramenées au Sénégal, mais Senghor était un pur produit de cette école aussi. Il est né dans les années 16, mais il arrivait très vite en France dans les années 30. Il était premier agrégé de grammaire de l'école française et, on l'oublie, un résistant et un prisonnier dans un stalagmite allemand dans les années 40. Est devenu député de la 4e République, etc., président de son... Enfin, ce sont des gens qui avaient une histoire, tu vois. Donc, cette histoire d'être à la fois français et africain, c'est une vieille histoire, et c'est ce qu'on voulait aussi rappeler, ne serait-ce qu'à nos propres enfants, tu vois, sans vouloir polémiquer avec quiconque. Hein.
C'était aussi le but de notre ouvrage, en fait.
Alors, question, comment ta fille, elle voit ces livres?
Alors, ma fille, elle est particulièrement claire de peau, ce qui perturbe pas mal de gens. On me dit, oh, tu l'as vu, elle est bizarre. Enfin, ou bien on me dit qu'elle a la bonne couleur. Et mon fils aussi, ils sont assez clairs. Donc les gens oublient que justement j'ai un papa noir, une maman blanche, mon mari est blanc. Donc la génétique fait ce qu'elle veut. Qu'est-ce que je vais dire? Donc le livre, le fait de sortir ce livre, ça n'a pas été, comment dire, je n'ai pas eu que de la joie. J'ai aussi eu beaucoup de moments de douleur parce que ça me rappelait plein de choses. J'ai revu plein de choses différemment. Donc c'est plutôt mon fils qui m'a dit une fois, ah, maman, ton livre, il nous a changé la vie. T'as beaucoup de visioconférences. C'était en 2020. Donc j'ai toujours un petit peu peur que ce soit trop lourd. Mais par contre, ce que je trouve incroyable, c'est que les deux aimeraient avoir les cheveux frisés. Mon fils a déjà les cheveux frisés, il a pleuré, il les aimerait crépus, il aime le basket, donc il a envie de ses coupes. Pourtant, il les a bien frisés. J'ai dit, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis Selma, elle a... Donc le garçon se nomme Des, c'est marrant parce que Desmond et Selma, mais je les ai vraiment... J'ai pas fait exprès de les appeler comme ça. C'était vraiment... C'est venu tout seul. Je savais pas que Selma, c'était la ville où Martin Luther King avait marché, en fait. J'ai demandé un fort conseil. Est-ce que
j'ai eu la première fois que j'en suis rencontré, je t'ai dit Desmond, Tutu, of course.
Oui.
Donc tu es un inconscient qui a parlé peut-être.
Oui. Oui, parce que j'ai réalisé aussi plus tard que mon père écoutait beaucoup de morceaux qui parlaient de la cause noire dans les Temptations. Yeah. The Message from a Black Man, je l'ai réécouté dernièrement. En fait, j'ai grandi avec tout ça. Ils me parlaient de ce genre de choses, mais d'une manière un peu agressive, tandis que là, je peux leur parler d'une manière plus posée. De tout ça, mes enfants, mon père est encore dans une très très grande souffrance, et moi j'essaye de, peut-être c'est mon côté un peu pédagogue, de leur communiquer ça. Ils comprennent que ça me fait souffrir, mais je pense que Selma trouve chouette, elle est déjà venue avec moi à des réunions, et elle m'a demandé, mais tu crois que je pourrais être dans le collectif? Oui, en fait ils sont moins naïfs que moi à l'époque, et plus heureux. Et c'est ce qui compte pour moi, en fait.
Une autre question?
J'ai un problème, le micro, il fait mal.
Est-ce que vous êtes d'accord de dire qu'il n'y a plus de race?
Oh, merci.
Et qu'on ne devrait peut-être pas toujours parler de race noire, blanche, parce qu'il y a en fait des ethnies...
différentes, des couleurs différentes, bien entendu. Donc, la race humaine, ça vous dit quelque chose ou pas?
Évidemment, là, on parle des conditions et des races au sens de social. Mais ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. S'il y a des gens qui se sentent discriminés, est-ce qu'il y a bien une discrimination? Non. Donc, le fait de dire qu'il y a une race blanche, oui, évidemment, il y a une race humaine, bien sûr. Mais il n'empêche qu'il y a des conditions, il y a des discriminations, il y a du racisme. C'est ça que... Et ce sont des choses qui sont sociales. Donc on parle de questions... Et ce sont en fait des questions politiques. Donc s'il n'y avait pas de discrimination et qu'il y avait... Que les êtres humains qui partagent cette condition d'être dans la même race humaine avaient les mêmes accès à tout, on n'en parlerait pas. Je donne un exemple très simple. On peut très bien avoir... On peut dire on a tous... des passagers, vous voyez, ça c'est la condition. Par exemple, on dit il y a une race humaine, on peut dire il y a une case de passagers quand je suis à l'aéroport, mais le fait que j'ai un passeport suédois ou le fait que j'ai un passeport somalien change la chose. Vous voyez, donc c'est de ça que tu parles. Donc quand le passeport, il y a un même passeport humain, si on veut dire, le jour où on aura un passeport humain et que les Suédois ou les Somaliens vont voyager de la même manière, le Somalien, il ne va rien dire, hein, puisqu'il voyage de la même manière. On voit bien que ce n'est pas une histoire de race, ce n'est pas une histoire de biologie, c'est une histoire de société. Donc c'est une histoire de qu'est-ce qu'on fait en société, et c'est une histoire politique, évidemment. Des histoires politiques, parce que selon les pays, on change, n'est-ce pas? Il y avait quelqu'un, je crois qu'elle voulait.
Merci. J'aurais voulu savoir si vous parliez d'alliés auparavant, si vous pouviez donner un exemple d'allié qui a fait débat au sein de... Parce que vous étiez trois, c'est ça?
La notion d'allié, c'est dans les histoires des politiques dans le groupe, tu vois, par exemple, dans les féminismes. Par exemple, c'est une question qui existait chez les féministes. Est-ce qu'on peut utiliser le... Et c'est une question qui se pose. Par exemple, si on a des discours féministes, comment on accueille les hommes? Donc il y a des femmes qui disent, par exemple, bah, les hommes n'ont rien à faire sur les questions, n'est-ce pas, des féministes. Puis d'autres peuvent dire, maintenant, on peut trouver des hommes alliés. Et c'est parce que, par exemple, ce que disait Madame Rousseau, là, depuis la verte, tu vois, elle disait des hommes déconstruits, c'est-à-dire des hommes qui ont déjà appris le langage des féministes, tu vois.
Ce que je voulais dire, c'est que vous parliez avant de Rimbaud, et Rimbaud est dans le dictionnaire.
Oui.
Et donc, quel a été le processus? C'est-à-dire, vous vous réunissez,
ah, oui,
et
comment,
vous proposez. Alors, pardon, voilà, ouais. Et j'aimerais savoir s'il y a eu peut-être une figure controversée.
Oui,
vous
alors,
avez défendu oui, chacun.
Et alors, oui, ça, c'est pour les dictionnaires. D'accord. Donc, ce n'est pas l'allié au sens théorique dans les combats. OK. Dans ces dictionnaires, comme dans les précédents, parce que on a déjà fait un premier avec Alain, comme je disais, Mabankou, et où il y avait 140 quelques entrées. En fait, Alain et moi, on se connaît depuis d'abord très très longtemps. On a commencé ensemble dans les années 90 et on a des goûts très, très différents. Lui, il est très grand, très beau, il est très mode, etc. Et donc, voilà. Et moi, je ne suis pas mode, pas beau, etc. Non, j'en rigole. Mais j'ai d'autres goûts. Donc, en fait, je suis par exemple plus politique que lui. Donc, lui, il est moins politique, etc. Donc, on peut imaginer que certaines entrées politiques viennent de moi, etc. Certaines entrées sur la musique viennent de lui, etc. Mais en fait, comme il y a pléthore de sujets, chacun mettait ce qu'il voulait. Et à la limite, s'il y a, comment dirait, un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, ben, en fait, on les virait. Parce qu'en fait, on avait plus de choses à virer qu'à garder. Et quand on a ramené notre ami Blanchard dans la suite, puisque c'est l'éditeur aussi, parce que le premier a bien marché, etc. Et l'éditeur nous a suggéré, enfin, on était prêts à faire les suivants, tu vois. Mais quand on a ramené Pascal avec nous, c'est qu'on cherchait aussi un apport, parce que Pascal est historien, il avait travaillé sur ces questions-là beaucoup plus longtemps que nous. Je crois que même le gouvernement lui a demandé une mission. Dernier gouvernement Macron, pour donner des noms des villes, etc. Donc, c'est des questions qu'il connaît parfaitement. Donc, on avait besoin de quelqu'un aussi qui vienne un peu de l'histoire. Nous, on vient de la culture, nous sommes des écrivains. Donc, la culture au sens large, c'est notre dada. On vient aussi de l'université, donc il y a pléthore d'écrivains. Donc, on ne voulait pas mettre toujours les mêmes choses qui sont nos centres d'intérêt. Et Pascal nous a donné, on va dire, la longue durée un peu. Par exemple, on ne savait pas. Est-ce que vous saviez qu'il y a, il y a eu un maire noir à Paris au XVIIe ou XVIIIe siècle, même, je crois que c'est. Oui,
je le sais grâce au livre.
Je pourrais les retrouver. C'était même pas, comme je disais, quelqu'un qui vient des Caraïbes, soit le tronçon, enfin la filiation qui vient de l'esclavage, soit de la filiation post-coloniale ou de l'Empire. Non, c'était un Brésilien, pardon, c'était un Cubain qui s'appelait. Severiano de Heredia, et il est venu comme ça à Paris, il a fait souche et il est devenu le premier maire de la ville de Paris. Donc, ce sont des choses qu'on oublie. Ça, c'est Pascal qui l'a ramené parce qu'on n'avait pas cette longue durée. Mais disons, il n'y a pas eu de choses. On a eu des fois, on s'est un peu frotté, évidemment, mais c'était, la plupart du temps, ça venait du fait qu'il y avait, comme ça, ça fait des années, ça fait un moment qu'on les traînait, et parfois, il y avait juste. Quelqu'un qui a posé la même question et tu disais, mais regarde ton fichier, je te l'ai déjà envoyé la note. Pourquoi tu me. Voilà, c'est plus des énervements, des cadences et des fichiers pas ouverts que de... Non, parce qu'en fait, on virait si comme on est, y a plus de choses. Et donc, en fait, si par exemple, 2 sur 3 ne sont pas d'accord sur, je sais pas, X ou Y, on virait. Donc, on disait, parce qu'encore une fois, il y a plus de matière à considérer et à sélectionner, donc on est dans un trop-plein. Donc si on n'était pas d'accord sur un, ou qu'on ne les sentait pas, on disait, bon, on laisse tomber. Ou sinon, on faisait confiance à la personne, qui a, par exemple, sur la partie longue histoire, on faisait confiance à Pascal parce qu'il savait, nous, il nous faisait confiance pour la partie nanana. Et donc, en fait, le principe, c'est le plaisir. Chacun fait une liste des gens, des mots, des personnes qu'il voudrait voir apparaître, et s'il y tient, bah, c'est qu'il sent, tu vois. Par exemple, moi, j'ai été très, lutin, très enjoué. Tu vois. Je ne voulais pas qu'on mette que des noms propres. Ça donnait au dictionnaire une dimension un peu monumentale. Je voulais qu'on mette aussi des choses un peu souriantes. Par exemple, dans les dictionnaires, les premiers dictionnaires, j'ai réussi à mettre la sauce magie. J'adore ça. Qui est d'ailleurs par un Suisse du Tessin, n'est-ce pas? Et si vous allez en Afrique de l'Ouest, vous allez trouver partout. Donc, je me suis dit, ben voilà. Là, ça fait partie. J'ai mis par exemple aussi la nounou, parce que si vous allez à Paris, vous allez voir toutes les femmes qui travaillent à Paris ont une nounou africaine qui est parfois super diplômée, qui a fait l'école de je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Et donc, nounou, moi, je trouvais ça sympa de mettre, ou les, ce qu'on appelle les verbes, les chip aussi, les chipper. Vous voyez, c'est ces sifflements entre les dents que font les populations africaines
et
nord-américaines aussi, parce que c'est les Américains noirs qui ont mis ça. Donc, voilà, ça s'appelle chipper. Et moi, je trouvais ça très fun que... Pourquoi mettre que des noms propres? Il faut aussi mettre des petites choses de la vie, quoi. Et donc, le jour où vous allez voir votre fils qui vous chippe, vous dites... Mais d'ailleurs, en France, on a, comme dans les populations des cultures africaines, on ne chippe pas les personnes seniors, tu vois. On a un respect de l'âge, donc vous n'allez jamais voir un gamin qui va chipper son grand-père. C'est pas, ça ne se fait pas. Même les voyous, ils ne font pas ça. Si vous allez à Paris, ce que les Français voient, et c'est ça qui est intéressant, à Paris, quand vous allez, parce qu'on parle des banlieues, des no-go-zones, blablabla, si vous allez à Paris et que vous êtes une personne âgée, si vous allez dans les banlieues, vous allez avoir tout le temps des gens qui vont vous laisser votre place. Parce que les petits gamins qu'on voit comme les, la racaille, comme dirait Sarkozy, eh ben, ce sont les premiers à se lever dans les bus parce qu'ils ont l'âge, ils ont le respect de l'âge, voyez.
Beaucoup.
Bon, ils ont peut-être d'autres défauts, mais ils ont cette vie-là. Les grands-pères, la grand-mère, on fait passer la rue, on s'élève. Et on ne la chippe pas.
Je vais expliquer ça à mon fils, il chippe à tout bout de champ. C'est l'heure d'aller au lit, je veux bien que tu chippes, mais après si c'est... Ah regarde, je t'ai acheté quelque chose, mais chippe. Mais c'est vrai que c'est très 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 à la mode en ce moment.
Ben, ça nous vient de nos frères américains, on les voit au cinéma.
Oui, mais il y a plein de choses originaires d'Afrique qui sont très, très, très à la mode en ce moment. C'est assez surprenant.
Ah ben, c'est pour ça, mon cours, il marchait. Hein. Allez, à mes étudiantes.
Bon, merci beaucoup pour ce partage de ces expériences riches. Moi, j'ai une question. Pendant que vous avez parlé, en fait, ça a bien fait marcher mon imaginaire, en fait. Et en fait... Après un moment, je me suis demandé, en fait, comment on va parler du racisme dans le futur? Parce que, en pensant que maintenant, on est dans un temps où à la, de biotechnologie, on choisit déjà la couleur des yeux, des bébés, et probablement dans 30 ans, tout le monde va le faire, et peut-être on sera tous noirs à la fin, en fait, parce qu'on se dit, ah, c'est plus, voilà, c'est plus joli, c'est plus pratique, c'est... Et peut-être dans le futur, en fait, le racisme bougera, en fait, parce qu'on aurait, on pourrait choisir la couleur de peau, en fait. Et du coup, je me suis demandé, en fait, comment ça pourrait... Ben, je vous laisse spéculer, en fait.
J'espère que je serai morte avant. Je sais qu'on peut déjà un petit peu, manipuler ça. On le fait déjà avec la chirurgie esthétique. Il y a une femme allemande en fait qui a pris des produits pour avoir la peau foncée. En effet, elle a la peau plus foncée que la mienne et que la tienne. Elle a les cheveux crépus. Elle espère avoir un enfant métis, un enfant noir, parce que son mari prend le même chemin. Et je sais pas quoi dire. On dit que finalement chaque personne peut faire ce qu'elle veut de son corps, mais après si c'est pour la descendance, je trouve très compliqué de décider de se projeter ça sur sa descendance, je trouve très très compliqué. J'espère ne pas vivre ça, sincèrement. Mais je ne sais pas après par rapport au racisme quelle influence ça aura, parce qu'il y a toujours une histoire de hiérarchisation, enfin, de classe sociale. Donc je ne sais pas. Oui, c'est horrible. Mais c'est peut-être possible. Oui. Impossible n'est pas français, mais oui, oui.
Ah pardon, voilà. Si vous voulez.
Ah oui.
Non. Si je peux faire une réponse rapide, c'est que encore une fois, on essaye de dire, c'est pas la couleur qui compte. C'est-à-dire que même si tout le monde devenait noir, il y aurait toujours. On voit, ce sont des formes d'égalité d'accès aux choses et de Et c'est pour ça que, comment il s'appelle, si je reviens à Papandreou, lui, il parle de conditions. Il ne parle pas de race, il parle en France de conditions noires. C'est-à-dire, c'est à la fois la question de la perception, comment cette personne, sans qu'on la regarde, l'effet miroir que Sartre a déjà parlé pour le juif aussi, hein, il disait la même chose pour les minorités religieuses. Donc c'est d'abord une question de perception, une question de comment soi-même on croit, et ça c'est très subjectif, tu vois, on se croit regardé, donc peut-être qu'on n'est pas regardé, mais on se croit regardé, ou on se croit différencié, etc. Donc ce sont des choses qui sont de l'ordre de l'interrelation. Mais l'essentiel, c'est l'accès à la discrimination. C'est ça, la discrimination. C'est que des gens n'ont pas les mêmes chances en fonction et la société organisée en telle. Par exemple, au Brésil, il y a d'autres formes de discrimination, alors que le pays est globalement métissé, n'est-ce pas ? Donc, si même on oublie la partie blanche du Sud, à l'intérieur de l'ensemble qu'on appellerait noir, ils se redéfinissent différemment. Et donc, être noir n'est pas la même chose en Europe, en Afrique, au Brésil, etc., en Afrique du Sud, etc., ce sont différentes manières de s'organiser dans la société. Vous parliez de mulâtre une fois, y compris dans des sociétés, par exemple, dans les Antilles, où tu avais des mulâtres, donc une classe, c'est pour ça qu'on parle des classes et des conditions, qui s'est trouvée être une classe intermédiaire, mais qui elle-même possédait des noirs, des esclaves. Donc, vous voyez, et qui était anciennement discriminée. Mais elle est devenue elle-même assez, en termes économiques, elle était assez productrice de ses moyens de production pour avoir des gens qui travaillent pour elle. Elle est devenue une autre race, tu vois, ce qu'on appelait mulâtre. Et ainsi de suite. Donc, c'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire d'organisation, de distribution et d'accès aux choses. Et aussi, après, là, comment c'est légiféré.
Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour cet entretien et de nous en faire part, parce que c'est pas...
Chez mes étudiants, ils sont formidables.
Oui, nécessairement. Et ce que j'ai appris chez toi, c'est aussi de vous saluer tous et tous, comme on salue des arbres. Du coup, bonne soirée à tout le monde. J'aurais une question par rapport à vos deux œuvres. Et je cite un auteur et prof très estimé, qui est peut-être ici, qui a dit qu'il y a aussi, disons, des conflits intracontinentaux, disons. Alors, par exemple, si je peux faire cet exemple, s'il y avait un tel dictionnaire sur les balcons, ou même « I will be different every time » sur les balcons, il y aurait nécessairement des entrées, disons, de femmes serbes et de femmes albanaises. Il y aurait des albanaises qui vont dire « Mais vous êtes folle de mettre les Serbes aussi dans cette œuvre. » Et du coup, je me suis demandé si la réception de vos deux œuvres, alors vraiment pour les deux, cette question, si vous avez aussi reçu de commentaires qui étaient de cette faite de cette manière-ci. Alors de dire... qui est peut-être une femme congolaise qui dit « Mais non, ça ne va pas de mettre n'importe qui dans l'œuvre. » Et pareil pour aussi les entrées dans vos deux dictionnaires. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, de notre côté, on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. On n'a pas eu de problème, par exemple, entre une femme éthiopienne et une femme érythréenne. Ce sont des choses que je vis plutôt sur mon lieu de travail avec des enfants. Mais là, il y a pas eu ce souci, les femmes étaient non plus pas obligées de se rencontrer, elles sont dans le même livre, mais non, on n'a pas eu de souci à ce niveau-là, heureusement.
Non, bien sûr, mais alors je vais te, parce que c'est Amina Rochi, c'est une de mes étudiantes, je vais te raconter une petite histoire, parce que tu parles de balcon. La première fois, je crois que la dernière fois aussi, je suis allé à Belgrade, j'avais un livre qui sortait en serbe, je crois que c'est Transit. Donc j'étais très content. J'étais à l'Institut français de Belgrade. Et la première qu'on a ouvert la table, enfin la discussion, parce que tout s'est passé d'abord bien, tout ça. Tout d'un coup, on a ouvert la question au public. Et la première question, c'était une bagarre. Il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a agressé la traductrice en disant « Mais vous avez mis un mot croate dedans et vous appelez ça un mot serbe ?» Et très vite, mais non, mais c'est pas un mot croate, c'est pas un mot serbe, il y avait une bagarre. Et j'ai levé la main en disant, mais moi je viens de Djibouti, je suis très content d'être ici, je suis très content d'être traduit, j'aimais tous les mots, hein. Et pour moi c'est bon. Voyez. Donc j'ai essayé de dramatiser la situation. J'ai dit, d'ailleurs il me souvient, je ne suis pas si vieux, mais il me souvient qu'on appelait cette langue-là les serbo-croates.
Mon père l'a pratiqué.
Voyez. Donc, vous voyez, j'essaie. Voilà. Donc, le fait que les humains cherchent ça existe toujours, y compris évidemment à l'intérieur du groupe, hein, évidemment. Elle a d'ailleurs dit au début que quand elle est partie, sa mère, elle est partie au Mali, elle s'est fait massacrer aussi par les Maliens en disant, mais c'est quoi cette blanche qui vient dans la famille? Donc, il n'y a pas un groupe qui a la primauté de l'exclusion et du racisme, ça serait. Hein. Bah, la première fois, j'ai emmené ma première épouse, j'allais dire, à Djibouti. Tout le monde posait des questions inconvenantes, du genre, alors, est-ce que vous, tu vois là, je sais pas quoi. Et ils parlaient souvent des religions aussi. Alors, tu vois là, l'islamisé. Mais j'ai dit, moi, je suis même pas croyant. Qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est permetté, hein, mais en plein, dans la rue, tu vois, des gens que tu connais pas, tu vois. Donc, on voit bien que il n'y a pas un groupe qui a l'harmonie. Et donc, nous, on essaye juste de déconstruire dans les situations, n'est-ce pas? Et d'amener un peu de souplesse dans. C'est comme les muscles, hein, il faut ça, se travaille la souplesse. Hein, si on ne travaille pas, on est dans des rigidités. Et tout mon travail, justement, à essayer de faire ça et à creuser des ponts et à trouver des traductions. C'est ça, en fait, c'est ça la culture, la médiation. C'est de trouver les moyens et de se traduire, de traduire en sens de médier. Hein. D'une langue à l'autre, d'une discipline à l'autre, d'une expérience à l'autre. Et c'est pour ça que ce dialogue, en tout cas ce soir, pour moi, il avait cet intérêt de dire, bon, on a fait la France noire, je connais, mais est-ce qu'il y a la Suisse noire? On m'a dit, si, il y a la Suisse noire, puisqu'on l'a trouvée. Et puis je faisais l'afrofuturisme en disant, est-ce qu'il y a... On m'a dit, si, on est afrofuturiste, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et l'idée, c'était simplement que, on est de plus en plus mélangés, c'est évident, et on va être de plus en plus, comme tu l'as dit, c'est mathématique. De même que c'est des mathématiques, il y a des flux migratoires et qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui viendront du sud dans le nord parce que le nord vieillit et ce sont des évidences, ça n'a rien de désobligeant. Par exemple, le Canada vient de décider qu'il va accueillir 400 000 personnes du sud pendant je ne sais plus X années, tu vois. Donc il y a des pays qui prennent ça objectivement et puis. Voilà. Puis d'autres qui disent que ça se fera de toute façon, n'est-ce pas? Donc les humains ont toujours été comme ça. L'Afrique était un continent plutôt vide, hein, contrairement à ce qu'on croit, très large et très vide, a un dynamisme aujourd'hui. Et c'est une des paris de mon séminaire aussi. On disait à Dakar, il y a 3 ans, on avait commencé une série de réflexions, pas 3 ans, un peu plus, en s'inspirant d'ailleurs des latino-américains, ce qu'on appelle l'école décoloniale. La colonialité, qui n'est pas le colonialisme. Mais donc, on disait, par exemple, que les questions africaines deviennent des questions planétaires et inversement, des questions africaines, des questions planétaires, il y a une africanisation des questions planétaires et une planétarisation des questions africaines. Parce que, par sa dynamisme culturel qui est reconnu, on aura un peu plus de présence africaine un peu partout. On va les envoyer en Afrique. Là.
Alors, qui on fait? Alors, vous avez déjà vite vous. Alors, on prend les 3, mais les questions courtes, s'il vous plaît.
Ou on prend toutes les questions comme ça et on essaie de répondre. Oui.
D'abord, une petite remarque concernant role model. Je pense que si vous pensiez aux sœurs Kambunji, vous auriez des role models extrêmement intéressants pour la Suisse. Mujinga et Ditaji, les deux athlètes phares de la Suisse. La Suisse existe sur la scène de l'athlétisme grâce à ces deux femmes. Donc, ce serait très intéressant de voir qu'est-ce qu'elles ont à dire. Elles sont congolaises par leur père et bernoises par leur mère et parfaitement bilingues en plus. Et peut-être, ça c'est une remarque, mais j'ai une petite question pour Abdourahm.
Merci.
Tu n'as pas mentionné aux États-Unis d'Afrique. C'est dommage parce que c'est un bouquin absolument génial. Peut-être ce serait juste intéressant pour le public de savoir comment tu as réussi cette inversion des choses et de mettre l'Afrique au cœur de l'histoire et non plus à la marge de l'histoire. Ouais, je trouve qu'il y a des trucs assez géniaux, y compris l'intégration de Alberto Giacometti qui tout d'un coup est devenu un type avec un nom musulman que je trouve absolument génial. Merci.
Alors on prend les 3.
Oui.
En fait, j'habite à Berne depuis longtemps. Merci beaucoup que vous êtes là, en fait. Et c'est la première fois que je viens dans une conférence pareille. En fait, l'idée de promouvoir le fait d'être africain en Suisse, c'est quelque chose qui m'était trop à cœur. D'ailleurs, j'ai des enfants aussi qui sont métis. Et je trouve un peu triste de voir tous les festivals africains, en fait, que de voir la nourriture et que de la musique, ça m'agace un peu plus. Et j'aimerais bien avoir, en fait, pourquoi on ne pourrait pas avoir une sorte de forum où on pourrait inviter les écrivains, parce que l'année dernière, j'étais en Allemagne, et ils ont un forum, en fait, où il y a des discussions, des professeurs, et que chaque après-midi, à partir de 5 heures, il y a des workshops, où il y a des échanges, en fait. Et c'est une idée de peut-être d'inviter des athlètes ou des gens connus à mettre en scène à Vienne ou à Berne dans ces activités-là, en fait.
Merci. D'accord. Je m'excuse, ich stelle diese Frage auf Deutsch.
Ich habe Deutsch.
Danke. Ich war vor kurzem in einem Kurs für werdende Mütter. In einem Kurs für werdende Mütter.
Ja.
Ich habe übersetzt. Es waren zwei Gruppen, eine aus Lateinamerika, wo ich herkomme, und andere aus einem europäischen Land.
Ja.
An diesem Nachmittag waren alle Frauen von ihren Männern begleitet. Und die Kursleiterin hatte eine Puppe für Erklärungen. Und einmal fragte ein Mann aus diesem europäischen Land, alle Teilnehmer waren Migranten, Migrantinnen. Und der Mann kommentierte, warum haben Sie eine Puppe mit dieser Hautfarbe, wenn die Kinder in der Schweiz weiß sind? Was hätten Sie in dieser Situation gesagt?
Soll ich antworten? Auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch? 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 Was hätte ich gesagt? Es ist mich was passiert, was Ähnliches. Ich arbeite in einer Tagesschule und es gab ein Mädchen. Sie hat eine schwarze Barbie, eine weiße Barbie. Die schwarze hatte den Kopf weg. Und ich habe gefragt, was ist da passiert? Ja, die ist nicht schön. Die Kleine ist halb aus Brasilien. Und ich fragte, warum ist die nicht schön? Ja, ich weiß nicht genau. Ja, wahrscheinlich, weil sie dunkel ist. Ich betraduire, en fait, elle dit qu'elle a eu deux groupes auxquels elle a donné un cours, un groupe avec des personnes d'Amérique latine, dont elle est aussi originaire. Et die zweite Gruppe ist auch aus Europa. Oder le deuxième groupe, des personnes européennes. Et ces personnes étaient accompagnées de leur mari, et à un moment donné, quelqu'un avait une poupée. Die Puppe hatte eine schwarze Haut. Dunkler als
ein Mestis.
Mestis, ja. Also ja, braune Haut.
Ja, braun.
Und et quelqu'un a demandé, mais qu'est-ce que vous faites avec une telle poupée? On vit en Suisse, les enfants jouent pas avec des poupées blanches. Et j'ai vécu une situation similaire avec, le truc de la poupée blanche et la poupée noire. Il y a une petite qui m'a clairement dit qu'elle était pas, qu'elle aimait pas la Barbie noire à qui les enfants avaient arraché la tête. Mais plutôt la blanche. Ich habe einen Test gemacht. Ich habe ein Foto von einer weißen Frau gezeigt, die nicht so schön, also schön ist immer so subjektiv, aber nicht so ein Topmodell gezeigt. Und Naomi Campbell, das Mädchen fand die andere Frau schöner. Naomi Campbell nicht. Ich weiß nicht, das ist etwas erklären, dann würden diese Leute sagen, das ist Geschmackssache, aber ich denke, das ist schon im Unbewusstsein verankert bei den Leuten, dass es schöner ist, weiß, auch die Engel. Ich dürfte nicht den Engel spielen bei der Krippe mit Jesus und so weiter. Ich musste den schwarzen König spielen, immer der schwarze König. Ich würde ein Engel sein, aber Engel waren nicht weiß, nicht schwarz. Donc, en fait, cette petite, je l'ai montré, j'ai fait un test avec elle pour savoir pourquoi, parce qu'elle n'arrivait pas vraiment à me dire pour quelle raison elle préférait la poupée blanche. Je lui ai montré une photo sur Google d'une femme blanche
C'est toujours très, très personnel, hein, la beauté, mais elle est en tout cas moins belle que Naomi Campbell, je suis désolée. Mais la petite a préféré la personne blanche. La petite est à moitié brésilienne. Ich habe dann mit das Mädchen geredet und gesagt, aber was hast du gegen ihre Hautfarbe oder so? Also dein Vater kommt aus Brasilien und der ist nicht weiß und es gibt viele Schwarze. Ja, sie wollte nicht wirklich darüber reden. Et j'ai essayé de communiquer avec cette petite en lui demandant, en fait, qu'est-ce qu'elle avait comme problème, que son papa vient du Brésil, est-ce que tu y es déjà allé? T'as certainement vu pas mal de personnes noires, puis elle n'avait pas trop envie d'en parler. Mais... je ne sais pas combien de temps ça va durer. Dernièrement, j'ai eu le temps de regarder c'est Noir en France. Et il y a justement ce passage avec les poupées. Et je crois qu'on peut toujours le faire, ce test. C'est terrible. Autant beaucoup de... ich denke, das wird bleiben. Es gibt viele Leute, die würden gerne braun werden oder gut tanzen, wie sie sagen, wie Afrikaner und so. Aber trotzdem... was herrscht, ist die weiße Farbe.
Je crois qu'on va être dans le temps. Je vais répondre rapidement à l'interrogation et à la question. Donc, Pierre, monsieur l'ambassadeur, merci pour la question. Étant ambassadeur de la Suisse en Somalie, donc, c'est aussi un cousin. Justement, on est en train de finir la lecture du roman avec les étudiants du séminaire. Pour les grands publics, c'est un roman que j'ai publié en 2006 qui s'appelle « Aux États-Unis d'Afrique ». Et j'utilisais à la fois la parodie, l'inversion, et je m'inspirais aussi des œuvres comme Montesquieu, celle des Montesquieu, les lettres persanes des Montesquieu, ou le roman de ah, comment il s'appelle déjà? Il y avait Gramsci, il y avait Swift aussi, mais il y avait Zadig et Voltaire. Voilà. Voilà, je venais de cette tradition un peu philosophique, mais j'ai aussi utilisé une espèce de carte panafricaine où chaque pays. Donc en gros, c'est une histoire où ce sont les Africains qui dirigent le monde et ce sont les Européens qui immigrent. Et les premiers immigrés qu'on rencontre, c'est un pauvre gars qui vient d'une favela de Zurich. Et qui va essayer de trouver sa pitance en Afrique. Et donc, il y a ce côté humoristique. Mais l'histoire est aussi racontée par un enfant adopté, qui est elle-même blanche, mais qui était une victime des guerres entre Bretons et Normands. Et donc, c'est un docteur humanitaire africain qui a ramassé une petite gosse dans les terres d'infortune du côté de la Bretagne, mais de la Normandie. Et donc, cet enfant, devenu une grande artiste africaine, essaye de retrouver aussi sa mère. Donc, l'histoire est à la fois une quête personnelle, cet enfant qui essaye de trouver ses parents, et cet immigré suisse de Zurich qui essaye de trouver du travail. Et pour lui, ça ne va pas plutôt bien se passer parce qu'il n'y a pas de raison que les Noirs soient gentils aussi. Hein. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu de tout le monde aussi égratigner tout le monde, puisque l'hégémonique États-Unis d'Afrique sont aussi problématiques pour la question des minorités et toutes les questions de l'acceptation de l'autre. Hein. Donc voilà, c'est un roman qui a plutôt tendance un peu à décaper tout le monde. Pour ce qui est de mon... puisque c'est mon compatriote qui disait, qui demandait un peu plus de culture, bah évidemment, voilà, c'est la conclusion. Il ne faut pas seulement qu'il y ait la bouffe et la fête. Il faut que les petits-enfants de Biel et de Bienne, qui sont... des parents brésiliens ou autres, et ces Africains trouvent aussi de la culture et de la nourriture. Et donc, si par mon passage ici, merci encore Stéphanie, merci Oliver, par mon passage à Biel avec ma camarade Diara, je provoque des initiatives et d'autres choses, bah, c'était le but, en fait. Il faut poursuivre le travail et créer encore plus de souplesse et plus de discussions à Bienne et à Biel et dans le canton de Berne en général. Voilà, merci beaucoup.
Merci infiniment.
Démocrate.